With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, présenté par LAM UA.
Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur Studio 404, le premier de cette année 2016. Donc, on vous souhaite tous une bonne année, qui, on l'a tous eu, a démarré sur les chapeaux de roue avec des décès, des attentats. On est très, très, très heureux. En tout cas, cela ne
allez, Ram.
Arrêtez des médias.
Je vous présente par Ram UA.
Cela ne viendra pas, comment dire, entacher notre enthousiasme et notre légèreté sur cette première émission. Non, mais voilà. C'est une émission old school à l'ancienne avec quatre sujets qui partent dans tous les sens, quatre chroniqueurs toujours aussi subjectifs. Après l'émission de novembre qui était spéciale et l'émission de décembre qui était spéciale. D'ailleurs, on est très content d'avoir accueilli nos petits camarades. Donc ce soir. Aujourd'hui, une émission à l'ancienne, on va dire, à la old school, comme il dirait dans le hip-hop game. C'est ça, Daz ?
Ouais, ancienne école.
À la ancienne école, ça va ?
Ouais, ça va très bien. Bonne année à tous.
Hey,
que du bon pour 2016.
Quel enthousiasme.
Eh oui, et ça n'est pas du tout forcé, n'est-ce pas ? Non, ça va, c'est cool. C'est ouais. Très cool.
Bon, tout est cool. Sylvain, tout est cool ou pas ?
Ouais, je vous ai pas vu depuis l'année dernière.
Oh, c'est quoi ta résolution ? 1024 par 738.
Excellent, j'arrête de fumer.
Ça, tu ne l'atteindras pas. On en parlera tout à l'heure. Fibre, comment ça va ?
Ça va pas mal parce qu'effectivement, beaucoup de gens meurent, mais pas nous. Non, mais c'est
voilà.
Vrai.
Bah, c'est vrai.
Je pense qu'on fait un démarrage d'émission qui se place dans le top 3. Hein. On est pas mal.
Pas
Mélissa.
Je vais très bien à l'image de ce début d'année.
T'es célibataire ?
It's complicated.
Non, mais je me suis dit, Mélissa va essayer de faire un démarrage normal, autant la flinguer tout de suite comme tout le monde. Hein.
Sabotage.
Bon, alors.
J'ai pas de dérapage encore. Pour le reste, je ne dirai rien.
Bon, très bien. Alors, on va commencer par un petit FAQ.
FAQ. La FAQ.
Vous vous doutez bien de cette première FAQ quand même qui est de saison et d'actualité. On va parler de bonnes résolutions. Sylvain, non. Daz, non. Pas de jeu de mots, pas de blague.
Merde.
Donc, Phil Vasquez sur Twitter, @Vasquez_FR. Ça veut peut-être dire qu'il y a des Vasquez_IT ou des Vasquez_co.uk, je sais pas. Donc, Phil Vasquez nous demande, puisque c'est la saison, quid de vos résolutions, notamment celles que vous étiez lancées dans les émissions, les claviers Bepo, tout ça. Est-ce que vous avez des résolutions? Est-ce que vous avez des résolutions, en tout cas pour cette année?
Bah Fibre, c'est toi qui l'a tenu.
Alors,
Fibre, déjà, parle-nous de ta résolution
Bepo. C'était en juillet, on s'est dit, allez, on fait tous le Bepo. J'ai tenté le Bepo. Donc
pour rappeler, le Bepo, on avait dit qu'il fallait changer la disposition des claviers qui était complètement débile.
Voilà, c'est
ça. Et le Bepo est censé être optimisé.
Et d'ailleurs, le ministère de la Culture a dit que le clavier AZERTY n'était pas adapté à la frappe du français. Ça date d'il y a deux jours.
Ah ouais ? Ah
oui.
Bah c'est bon, ça.
Alors, le Bepo, déjà, ça coûte 100 euros. Voilà, ça m'a fait un peu mal. Et ensuite, j'ai vécu l'enfer. Pendant deux mois, ça a été l'enfer. Pendant deux mois, je tapais avec deux doigts et j'avais la même pression de travail. Et pourtant, je pouvais pas taper. Et là, on va dire, je suis à l'équilibre en termes de bonheur.
D'accord.
Et c'est vrai que je pressens du bonheur dans les doigts. Voilà. Donc, je suis assez content.
Ah.
Donc,
la résolution, c'est de plus dire.
Donc, 2016, tu restes sur le Bepo. 2016,
j'aimerais bien. J'ai l'objectif d'avoir un PC avec 2 gigas de RAM. Voilà.
Mais ça, c'est une résolution de 2012, ça. C'est pas de résolution de 2016.
Non, parce que moi, j'achète toujours le PC à 300 euros chez Auchan.
Est-ce que tu veux qu'on fasse des blagues sur toi qui achète des PC ou pas, Fibre, en mode tente?
Non, mais voilà. Ah, donc, je vise le 2 gigas de RAM. Voilà.
C'est ce qu'on appelle le gain petit ou le manque d'ambition totale. Chers camarades, est-ce que vous avez des bonnes résolutions pour l'année? Daz?
Non, aucune. Non, mais j'envisageais, moi, de m'acheter un Oculus Rift. Bon, on mettra ça pour l'année prochaine. Je vais commencer à mettre des ronds de côté. Non, j'ai rien de... Les résolutions, le principe de base, c'est de les avoir en début d'année et de jamais les tenir. Donc, autant ne pas en faire.
D'accord.
Voilà.
Comme ça, tu te projettes directement à février-mars quand tu les abandonnes, c'est ça?
Exactement.
C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est la prospective. Sylvain.
Moi, en fait, je vais partir sur ma lancée de fin 2014, de fin 2015.
Fin 2014.
Fin 2014. Je vais dire fin 2014.
Parce que fin 2014.
Fin 2015. En fait, j'ai commencé mes résolutions fin 2015 et je vais les continuer en 2016.
Et c'était quoi?
C'est-à-dire faire plus de sport, ouais, moins la fête et garder une meuf un peu longtemps.
Ouais, tu sens le trentenaire, quoi.
La trentaine, ça sent la trentaine. Ça sent la trentaine.
On a cette histoire depuis 3 ans. C'est un drame.
Et enfin, Mélissa. Est-ce que tu as une bonne résolution?
Réponse Mélissa Bounois. Vous savez à quel point j'aime l'organisation et donc faire des listes et des trucs de résolution. Donc j'adore faire ce genre de trucs et trouver surtout la meilleure manière de le faire.
Donc en fait, le mois de janvier, c'est un peu ton Noël à toi, quoi. C'est vraiment ton petit
Sauf
mois sacré.
Que cette année, j'ai décidé d'arrêter ça parce qu'à force de faire des listes, je faisais pas les choses sur mes listes. Donc cette année, ma résolution, c'est juste de faire les choses, d'arrêter de faire des listes.
Pas mal.
La résolution, c'est d'arrêter d'avoir des résolutions. Bon, bref. C'est très très méta. Allez, on attaque tout de suite la première chronique avec Fibre Tigre.
Sujet numéro 1.
Mon addiction pour Snapchat ne disparaîtra pas dans 10 secondes.
Alors c'est un serpent de mer cette chronique puisqu'elle était prévue depuis 2 mois et puis en plus Fibre l'avait écrit depuis octobre puisqu'il est très très en avance. Mais c'est pas plus mal parce que finalement ça t'a laissé le temps de découvrir Snapchat comme c'était prévu, mais surtout de t'y accommoder, de t'y habituer, et plus que ça encore. C'est ça, Fibre?
Tout à fait. Alors, 6 milliards de vidéos produites par jour, 8 milliards de vidéos vues par jour, 2,21 millions de gigawatts, c'est Snapchat, l'application que vos enfants utilisent, et s'ils prétendent le contraire, c'est qu'ils vous mentent. Bon, eh bien, comme vous êtes tous un peu vieux ici, désolé Daz, c'est un débat chez 404, à la base de chaque techno qui cartonne, il y a dans l'ADN de Snapchat une histoire de sexe et de nerd. Les nerds, en l'occurrence, étant Evan Spiegel et Bobby Murphy. Alors, on est en pleine affaire, c'est un peu vieux ça, mais on est en pleine affaire Anthony Weiner, vous savez, l'homme politique américain qui avait envoyé des photos osées à des femmes, ouais, et nos amis nerds se sont dit, bah, si on faisait une appli où les photos seraient immédiatement effacées après visionnage.
Carrément.
Voilà, Snapchat était né, Weiner a démissionné et les nerds pèsent aujourd'hui 15 milliards de dollars. Snapchat en
c'est,
deux
c'est,
mots.
C'est quoi cette voix, Fibre, en 2016, c'est ta résolution?
J'essaie de vous vendre le truc.
C'est une chronique de la bourse de BFM.
Voilà, c'est ça.
C'est une voix très Bepo, je trouve.
Snapchat en deux mots, pour nos auditeurs parents et Daz, et Mélissa aussi, c'est une application mobile qui permet d'envoyer de façon privée ou publique une photo, avec un texte éventuellement, ou une vidéo, qui pourra être visualisée 10 secondes, et ce ne sera vu qu'une fois.
D'accord. Et après, irrémédiablement, pouf.
C'est effacé, complètement ou pas, parce que on n'en sait rien et que Snapchat vous permet de revoir des photos aujourd'hui une fois et peut-être une autre fois si vous voulez bien payer. C'était possible avant, c'est plus possible maintenant, ce sera peut-être possible demain. En tout cas, c'est pas trop effacé. Voilà. Snapchat permet, en plus de son envoi de messages, de visionner des formats plus longs, thématiques, sponsorisés et surtout, et on y reviendra, les stories, qui sont des...
Ah mais au secours.
Qui sont des compilations de Snap. 90% ce sont des gens, Capucine Pio, Flaubert, mon blog de filles, Thomas Hercouette, Fibre Tigre, qui parle face caméra par tranche de 10 secondes, c'est formidable, suivez-moi. La question que l'âme m'a posée, on était en novembre, et à l'époque j'étais pas du tout sur Snapchat, c'est pourquoi Fibre, pourquoi Snapchat cartonne chez les ados et ne prend pas du tout chez les adultes?
Je te pose toujours la question, voilà. En janvier 2016.
Alors, quelques propositions d'explications. Moi aussi, je me pose un peu la question parce que je crois que je suis un adulte et ça marche bien chez moi, mais bon. Quelques propositions d'explications. D'abord, Snapchat, c'est la génération selfie au premier degré.
D'accord.
Donc, vous savez, quand le selfie est arrivé, nous, on était là un petit peu en mode de second degré. Oui,
c'était un peu pour s'excuser de faire un selfie, quoi.
Voilà, c'est ça. Tandis qu'eux, non. Ils faisaient des selfies vraiment au premier degré. Ils aimaient ça. Et effectivement, sans arrière-pensée, et Snapchat, c'est ça. C'est le selfie et ça a marché chez eux. C'est la génération qui crève d'envie de s'envoyer des photos. Vous savez, ils sont ados, ils ont des appareils photos dans les mains et leurs parents leur disent, les traumatisent avec des histoires de tes photos se retrouveront partout sur Internet. Oui, bien sûr, les Snap, comme je viens de le suggérer, ils sont pas sûrs. Mais les
globalement,
ados, ouais, ils ont une petite excuse. Ils vont pas creuser le dossier. Snapchat, c'est la Real TV de l'internet. Pas de post-prod, de la mauvaise qualité, du contenu en abondance. On produit plus qu'on veut regarder. C'est l'anti-Vine. Alors Vine, c'est le règne de la post-production hollywoodienne. Ouais. Là, si vous aimez la télé-réalité, les films de vacances sur caméscope, le porno amateur, la maladresse, les bottins, bah Snapchat, c'est fait pour vous. Snapchat brille là où la GoPro a échoué. Qui ira monter puis voir vos 400 heures de rush de ski, Sylvain, hein, qui,
ah ouais,
ou de base jump? Et oui, en 2016, c'est plus difficile, donc plus rare.
Les rush de
paye 400 euros de rush de payage.
Donc plus rare de voir quelqu'un faire ses courses au Carrefour, par exemple moi, que de sauter d'un avion, Sylvain, est bizarrement beaucoup plus intéressant. Mais passons aux choses sérieuses. Pour vous auditeurs, j'ai testé Snapchat et au passage, j'ai vécu ma crise de la quarantaine technologique. J'ai Snapchaté ma vie pendant un mois. Maintenant, ça va faire deux mois avec le temps. Hein.
Ouais, bien sûr.
J'ai tout fait au premier degré façon Truman Show. Et on devient vite accro à la production de contenu, à l'aspect réseau social, à la liberté de ton.
Ouais.
Parce que finalement, ça disparaît. Effectivement, les snaps s'envolent, les tweets restent. Ça a franchement, personnellement, ça a amélioré ma vie parce qu'il y a des gens horrifiés, je vais pas citer, qui sont dans cette salle, qui ont vu ce que je mangeais, qui ont dit, bah, il va falloir vivre mieux, fibre, attention, parce que il faut manger mieux, voilà. Et même d'autres personnes qui, n'est-ce pas, bonjour Chloé, qui ont vu que j'étais surbooké ou un peu triste, qui m'ont pas trop mis la pression à certains moments. Donc, la surpuissance de Snapchat, c'est donc dans sa dynamique qui encourage la communication au premier degré. Quelque chose que nous adultes avons un peu perdu dans le jeu sophistiqué des réseaux sociaux. Et je viens en direct, excusez-moi, je suis en train de lancer Snapchat.
Ouais, la mise en abîme est totale.
Voilà, exactement, je suis en train de Snapchatter sa dernière
Sylvain
phrase.
Snapchat, et Sylvain te Snapchat en train de Snapchatter
ta chronique
c'est
sur Snapchat.
C'est merveilleux. Alors, après la caméra qui fait peur, la loi renseignement, Big Brother, la caméra qui apporte gloire et dollars, YouTuber, Twitcher, va-t-on vers la caméra compagnon de vie qui apporte réconfort et soutien? Alors, à vous, adultes perdus, Daz et Mélissa, qui voulez vous lancer sur Snapchat. mes petits tips. Ouais. Premier alors, tips.
Quels sont tes tips pour les adultes qui veulent se lancer sur Snapchat?
Alors, pour qui veulent réussir, hein, parce que tout le monde peut télécharger l'appli. Bon, il faut essayer de comprendre l'appli aussi. Voilà. Alors, surtout, ne préparez rien. Ne travaillez pas vos textes. Faites du Ken Loach, du Lars von Trier.
Lars von Trier.
Ne vous préparez pas. Filmez-vous comme vous êtes façon McDo. Si c'est préparé ou c'est esthétique, surtout pas, ça ne passera pas. Abusez de la story. Snapchat permet de faire des clips de 10 secondes. Eh ben, faites 100 snaps où vous parlez d'un truc sans intérêt. Plus ce sera long et plus ce sera sans intérêt, plus les gens vont regarder. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin, peut-être que dans notre société hyper qualitative en contenu, le vide devient l'ultime divertissement du futur.
Voilà, là, c'est fibre 2016.
Voilà.
Attends, tu vas reprendre ta voix normale du coup, tu vas garder ta voix.
J'aime
2016.
Bien ce Philippe Manœuvre sous
zéro. Non mais parce que ça fait quand même 3 mois que je la révise cette chronique quoi, donc je sais ça. La dire.
Est-ce que t'étais devant ton miroir, tu travaillais les mots forts, les points d'intonation.
Ah, je et devant Snap maintenant, c'est merveilleux. Voilà.
Alors Fibre Tigre nous parle de Snapchat et pour ceux qui suivent Fibre Tigre, c'est vrai que c'est assez hypnotisant parce que tes stories sont très longues, elles durent quasiment 15-20 minutes. On est loin du côté genre une photo 10 secondes jetée, c'est que pour suivre ta journée. Ce sont des successions de 30-40 séquences de 10 secondes suite.
Pour tout dire, je me suis dit comment réussir sur Snapchat et j'ai regardé les gens qui réussissaient. Par exemple, mon blog de filles. Ouais. Et mon blog de filles, c'est une nana face caméra qui, pendant 25 minutes, vous parle de trucs mais inintéressants, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, je suis capable de faire
mais
ça.
Mais pourquoi?
mon blog de filles, pour resituer, c'est un des blogs de make-up, maquillage en français les plus connus.
Tout à fait, voilà. Ouais. Et la nana, elle dit, voilà, aujourd'hui, j'ai acheté un vernis violet. Ouh là là, il a l'air bien, mais je vais l'utiliser, je sais pas trop.
C'est le vrai nom, ça.
Mais ça t'intéresse,
mon blog de filles, tout à fait.
Mais c'est MBDF.
Ça intéresse des meufs.
Ouais, non, mais
si tu connais un peu, c'est MBDF.
MBDF, ouais.
Hélène Le Gastellois.
Voilà. Et donc, non, mais même Capucine Pio, Babillage, c'est pareil. Donc, pas forcément, parfois ils racontent leur vie et c'est un peu hypnotique quoi, c'est un peu oh tu te vides la tête, c'est bon et tout, et j'ai eu envie de produire ce contenu, c'est très sympa, voilà, je m'éclate.
Donc ça remplace en fait Très Pêche et Très Chasse, tu le cales devant à 2h du matin et...
mais c'est super génial Chasse et Pêche.
Bah, j'aime bien, ouais,
mais c'est vrai parce que la seule personne que moi je connais qui est ma copine qui est très Snapchat ne regarde ça que avant de s'endormir. Et il y a un côté, c'est un peu abrutissant, agréable. Elle est dans le lit et elle regarde les Snapchats effectivement de Kenza, de Babillage, de Fibre Tigre, etc., qui sont très longs. Enfin, les stories, pardon. Et il y a un côté chasse et pêche de 2h du matin, ouais.
T'imagines si demain les gens qui font ces trucs-là décident en fait de raconter des trucs intéressants ou même de lire un livre.
Je crois que le format est pas spécialement fait pour. Je crois que c'est un format vécu. Mais du coup, je pose la question à Sylvain, qui est le deuxième membre de 404 le plus actif sur Snapchat. Enfin, le deuxième et le dernier membre de 404 actif sur Snapchat, mais qui était là avant Fibre, parce que c'est un hipster, il pouvait pas faire autrement.
Non.
Et est-ce que tu te reconnais dans ce que Fibre a raconté, dans ce qui est intéressant et pas intéressant, dans comment faut réussir, ou est-ce que tu vis ça différemment?
Moi, je le voyais différemment parce que je pense que j'avais des contacts beaucoup plus divers. Je suis pas allé directement faire mon benchmark auprès du top, c'est-à-dire les blogueuses mode et beauté.
Ouais.
Et j'avais des trucs assez divers, mais en même temps, c'était les balbutiements. T'avais beaucoup d'essais et de qu'est-ce que j'essaye de raconter, qu'est-ce que j'essaye de faire, etc. Mais j'avoue qu'après l'analyse de Fibre, il y a quand même une sorte de norme qui fait que la masse utilise copie les usages pour être efficace. Et effectivement, ça commence à tendre vers à peu près ce modèle-là, c'est-à-dire se filmer au premier degré et raconter sa vie, quoi.
Et donc, le marché sur des stories très longues. Oui, le marché parlé. Donc pour les auditeurs qui ont écouté le 404 du mois dernier, qui connaissent Navo qui a lancé un podcast très premier degré où il marche et il parle sans montage, sans préparation, etc. Et ça, c'est ce qui séduit aussi pour toi, Sylvain, aussi sur Snapchat.
Ouais, pour moi, c'est vraiment la même chose. Franchement, c'est ça.
Donc en fait, on est sur la fraîcheur et le côté franc avant la qualité, en fait.
C'est spontané, c'est sincère et c'est intime, en fait.
D'accord.
Et c'est ça qui fait le bon cocktail.
Mais du coup, on retrouve un peu l'usage. Enfin, même si les stories ont évolué par rapport au contenu premier de Snapchat, on retrouve quand même le contenu de Snapchat qui a fait son succès au début, qui était justement, apparemment, c'était les ados qui se permettaient d'envoyer des trucs un peu osés ou un peu débiles parce que justement, c'était premier degré, ça restait pas et qu'il y avait plus, comme disait Fibre, la pression d'un Instagram travaillé, d'un tweet travaillé, d'un statut.
Mais d'ailleurs, l'inverse démontre aussi la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent de faire des snaps très esthétiques, très développés, et c'est nul. C'est-à-dire ça marche pas parce que la résolution est faible, la gestion de la lumière est pas bonne. 10 secondes, c'est impossible. Voilà.
Il fait pourquoi. Voilà. Mélissa, alors, toi qui as écouté tout ça, est-ce que déjà ça fait évoluer ton avis de Snapchat par rapport à ce que tu avais comme avis au départ?
Non, mais alors déjà, j'ai testé Snapchat. Hein,
ouais.
Parce que je suis pas une vieille conne. Donc je me suis dit, bon, faut tester tous les réseaux sociaux, je teste le réseau social. Donc je l'ai téléchargé une première fois, laissé, j'ai ajouté mes amis, j'ai reçu des snaps, j'ai vu des snaps, j'ai jamais envoyé de snap.
Ouais.
Puis je l'ai déchargé parce qu'en fait je trouvais ça trop envahissant et je trouvais aussi argument le plus important qui m'a fait la détélécharger au-delà des notifications, c'est que l'expérience utilisateur de cette appli n'était pas simple pour moi. Et à l'époque il y avait que les snaps, il y avait pas encore les stories et discover et tous les trucs de médias qu'on pouvait lire.
Ouais.
Et du coup je suis pas restée quoi, ça m'envahissait trop et surtout j'arrivais pas à être dans ce truc premier degré de je me filme dans la rue et je vous raconte ma life.
Mais du coup je me permets de rebondir, là ce que tu racontes, est-ce que ça fait pas penser aux gens qui justement ont essayé Twitter? Il y a un côté genre j'ai essayé,
en fait,
j'ai suis revenu, j'essaie de follow des gens, j'essaie de suivre et je comprenais pas, et l'ergonomie et le charabia du site etc m'ont fait qu'à un moment je me suis pas senti intégré. Enfin j'ai l'impression que tu racontes Twitter il y a 7-8 ans un peu.
C'est assez comparable, mais après moi les gens qui n'arrivent pas à être sur Twitter, je leur dis pas mais attendez c'est l'avenir. Il y a des gens, ils ont pas besoin de Twitter. Moi, j'estime que, en fait, ça m'est arrivé de regarder des blogueuses mode en étant aussi admirative et en étant un peu fascinée par ce truc trop bizarre. Mais en fait, je me suis dit, non, je vais faire autre chose, quoi.
D'accord.
J'ai déjà regardé un snap de Kenza, j'ai déjà regardé un snap de Babillage, enfin, des stories de Babillage. Mmh. J'en ai regardé celle de Fibre quand il a parlé de moi, mais en fait, j'ai pas besoin de cette appli, quoi.
D'accord.
Okay. Je regarde encore Chasse et Pêche. Non, c'est pas
Daz.
Qu'est-ce que vraiment tu penses en parler?
Oui.
Est-ce que tu l'as déjà téléchargé au moins?
Non. Mais c'est même pas un délire de vieux con parce que je comprends le délire des gens qui sont dedans. C'est juste que moi ça me parle pas quoi. En fait, je conçois pas d'utiliser un réseau social si c'est juste pour consommer. Moi j'aime bien les réseaux sociaux parce que justement je participe.
Et toi tu devrais pas participer sur Snapchat?
En tout cas j'éprouve pas l'intérêt. Donc je me dis que comme j'éprouve pas d'intérêt, j'ai aucune raison de me faire chier en fait. Après, il y a un truc aussi, c'est que moi, les rôles modèles qu'il y a sur Snapchat, ça m'intéresse pas trop, tu vois.
Ouais.
Finir ma journée en regardant Babillage.
Oui, mais parce que non, parce que là, on parle de Babillage,
c'est rigolo le côté second degré, troisième degré, regarder. Je suis tellement caustique, je regarde Babillage avant de dormir. Moi, ça me terrifie de me dire que je regarde Babillage avant de dormir.
Alors, en vrai, t'as des médias sur Snapchat, t'as des trucs hyper bien foutus avec des vraies infos.
Ouais, non, mais en fait, le truc,
t'as Time, t'as Vice qui produisent des choses aussi.
C'est juste que je, comme c'est un réseau social et que j'ai pas envie de participer. Ouais. Bah, je consomme pas, tu vois, c'est du
donnant. Je crois que personne ne regarde les stories Snapchat au second degré ou au troisième degré. Je veux dire, les gens qui regardent tous les soirs avant de s'endormir, comme un compte que te lit ton papa, et ben c'est vraiment le premier degré total. C'est une voix qui te murmure avant que tu t'endormes.
Ah ouais, non, mais je sais pas, moi je préfère faire autre chose que regarder Kenza ou
Franchement, là, si tu devrais essayer de produire du contenu sur Snapchat pour nous partager les petits moments un petit peu marrants de la Cogip en fait.
Ouais.
Je pense que ça pourrait être très drôle.
Ah, là, ça fait, on a vu son petit tag.
Résolution!
J'ai déjà un Tumblr.
Résolution 2016.
Attends, il est où ton Tumblr?
Ah bon? Tumblr Cogip. Bah ouais, les gars, Cogip Life.
Bah, faut que tu nous envoies.
Cogip Life.
Et on apprend des choses, ça sert.
Bon, non, mais t'essaieras quand même ou pas?
Allez. Résolution 2016, vas-y, j'essaie.
Donc, challenge pour ceux, les trois de nous qui n'ont pas encore vraiment lancé Snapchat plus que ça, on essaiera de poster? Qu'est-ce qu'on fait, des stories ou des snaps à l'ancienne, des trucs genre
non,
une photo?
Non, des snaps à l'ancienne. Story.
Laissez-moi le temps de m'habituer
une
quand même.
Une story et quelques snaps.
Et des petits moments dans Elite, des trucs comme ça, tu vois.
Non, moi je veux ta fille, on peut avoir un peu ta fille.
Mais non, c'est interdit sur Internet.
Attends, il y a des photos sur tout Instagram.
Oui, bah c'est pas Internet.
Bon, très bien. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, on vous enverra nos noms de compte et on essaiera de pas détélécharger, Mélissa, l'application.
Ça va.
Allez, une FAQ tout de suite.
FAQ.
Une question de Loïc Michel. Alors, je tiens aussi à remercier tous les auditeurs parce que ce mois-ci, grosse patate, on a reçu plein de FAQ, plein de questions sur Twitter et sur Facebook. On sentait que vous en aviez gros sur la patata. Sur Facebook, c'est Loïc Michel qui nous demande est-ce que vous bloquez les paris pour le nom du fameux OS Made in France évoqué par le gouvernement ?
Piou !
Parce que c'est vrai que le gouvernement voulait un OS souverain, comme ils appellent ça. Donc, je vois déjà que ça commence à ricaner autour de moi. Manuel Valls, si je ne m'abuse, hein, a évoqué donc la possibilité de créer un OS souverain. Je ne sais pas pourquoi.
Pourquoi non souverain plus. Déjà.
Je pense qu'il s'est fait hyper par le mot souverain. Mais bon. Donc, si on avait un OS made in France, comment s'appellerait-il ? Je vous laisse. Allez, je vous laisse 15-20 secondes.
Oh, putain. Faisons un caton tous ensemble pour trouver le nom de.
On se met une contrainte. Il ne faut pas que ça finisse en EO.
Ah non, merde
non. Ah bah non, EO c'est pour les startups, attention.
Okay, okay,
attention,
okay,
EO c'est pour les startups.
Palais de chat iOS.
Palais de chat iOS.
Tu vois, porte ma iOS ou un truc comme ça.
Ah non, FL, voyons.
Ah ouais, FL.
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 Ça fait un peu.
France libertaire.
FL, non, France libre. 2. FL 1.
J'ai une petite anecdote.
Ouais, pendant que les autres réfléchissent. Ouais. Vas-y.
Dans Sigma Theory, il faut construire la France.
Alors, annonce Sigma Theory, le jeu qui va sortir.
Voilà. T'as pas d'anecdote, un instant promo.
Non, mais je me suis dit, si la France construisait un robot géant, comment elle l'appellerait? Tu vois?
Ouais.
Et il y a des gens qui m'ont dit, bah, il l'appellerait Mitterrand, tu vois, parce que Clémenceau,
Jean
Delors.
Non, mais c'est vrai, il y a la citation François Mitterrand de Élite.
Oui, c'est ça, voilà.
Citation Gorbatchev.
Voilà. Non, donc mais après, je me suis dit, il y a la fusée Ariane, et donc je pense que ce serait plutôt genre un truc Hermès, Mercure, Athéna.
Un truc un peu beau, ouais, c'est
ouais,
vrai.
Moi, je pensais plus à un truc genre Artemis ou un truc comme ça.
Ah, donc là, vous êtes en mode premier degré, on va trouver un nom potable. Non, mais attendez, c'est une FAQ, hein, vous pouvez trouver un nom potable.
Artemis, c'est une déesse de la chasse. Hermès, c'est les communications, Mercure aussi.
Non, mais Hermès, c'est
une façon bizarre de l'écrire, tu vois.
Ah oui.
Artemos.
Artemos.
Ah non, je sais pas.
Ça fait un peu tweetos.
Je pense qu'il faudrait, oui, faire plaisir au patrimoine culturel français, à la richesse culturelle française. Tom et Nana OS, tu vois.
Tom et Nana OS.
Molière.
Un truc qu'est-ce que tu poses là, tu vois, un truc.
Faut que ça finisse par OS pour vous.
Non, mais on parle quand même d'un truc souverain proposé par Manuel.
Comment ils l'ont appelé le GPS français?
Attends, j'en ai un. Carlos.
Galiléo.
Carlos.
Galiléo. Ouais.
Galiléo.
Bah, Galiléos. Galiléos.
Galiléos.
Tu l'as dans l'os.
En plus, j'imagine.
Tu l'as dans l'os.
Vu que c'est un gouvernement de gauche qui lance le truc, je pense qu'il faudrait un nom qui résonne. À gauche, tu vois.
Ah, bah, parce que si c'était les Républicains, ça s'appellerait l'OS.
Non, ça s'appellerait fils de pute OS, ou comme ça, tu vois. Ça devrait s'appeler Jean Moulin.
Non, mais bon, s'il doit être souverain, moi, je ferais bien un truc avec Fleur de Lys. Fleur de Lys OS.
Ah, bah, Fleur de Lys.
Fleur de Lys.
Fleur de Lys. Okay,
bah, super, Fleur de Lys.
C'est bien moche, c'est parfait.
Fleur de Lys, c'est tellement pas appétissant. T'as téléchargé Fleur de Lys 4.3? Bah, ouais, j'ai la Night Release, quoi. Donc, bon, bah, c'est la Night Beat. Allez, Fleur de Lys. Allez, on attaque la deuxième chronique.
Sujet numéro 2.
Vous aimez donner des notes à tout va ? Eh bien, c'est l'heure de recevoir.
Alors, on parle de notes.
Tout à fait.
On parle de notes et des gens qui se notent et de gens qui notent les uns les autres, des gens qui notent les marques et des marques qui se mettent à noter les gens.
Ouais.
Et de la flip que sont en train de créer, possiblement.
Finalement, pour reprendre un mème connu, quelle époque pour être vivant ? What a time to be alive.
Voilà.
Internet vous a donné le pouvoir de dire non aux intermédiaires qui s'en mettent plein les poches. Et oui, vive la démocratie. Grâce à lui, vous avez découvert la décentralisation, le collectif, le participatif, le réseau et le peer-to-peer. Tout cela est faux, mais on fait comme si. Remerciez Internet car vous êtes entré dans l'économie du partage et de la collaboration. Vous êtes passé d'une économie de la propriété, posséder un Volkswagen Touran. Salut Henri Michel. À une économie de l'accès, partagée à un Marseille-Paris avec un dealer de crack en mode go fast.
Salut Henri Michel.
Salut Henri Michel. Quelle époque pour être vivant. Aujourd'hui, l'économie est celle donc du pair à pair. Sur eBay, le vendeur sera votre client demain. Sur le bon coin, Gérard qui vend sa machine à laver à Arcachon est votre voisin. Et votre banquier, c'est vous, comme le répète la pub. Cette nouvelle économie, née avec le numérique et son lot de hippies hyper connectés, repose sur une monnaie bien plus forte que celle de la bourse et des marchés. Il s'agit de la confiance.
Oh là.
La monnaie de la confiance, voire de celle de la réputation.
De l'irréputation.
Grâce à cette devise décentralisée et démocratique, je parle toujours pas du bitcoins, plus personne ne fera l'erreur d'acheter ce Viagra sur Amazon depuis que Josh25 a descendu le vendeur dans les reviews, suspectant les pilules d'être un vulgaire placebo. Par contre, ce jeune coréen qui fabrique ses sacs à dos sur Etsy est une vraie star. Sur 1500 notations, 95% comportent 5 étoiles. Bravo Park Yoon Lee, tu te fais des couilles en or mon salaud. Voici donc le pouvoir de l'internaute moderne, celui de pouvoir noter, commenter et râler de manière publique sur tout et n'importe quoi. Et ça marche très bien en France, on aime bien ça. Qui n'a jamais profité de son nombre de followers sur Twitter pour mettre la pression à un opérateur téléphonique ?
Qui
je vous regarde. Mélissa.
Qui n'a jamais baissé la note d'un chauffeur Uber parce qu'il n'évitait pas les neat pools? Qui n'a jamais débuté un tweet même par un point pour bien montrer à tous ses followers que Lisa de la Poste ne fait rien que perdre les colis? C'est à cause de vous que plus personne ne réserve le Airbnb de Gaspard juste parce qu'il a oublié de mentionner qu'il élevait des furets. Eh bien, profitez-en, car je vous l'annonce, la situation va bientôt se retourner. Vous aimez donner des notes à tout va? Eh ben, c'est l'heure d'en recevoir. Abderrahman, à qui vous avez mis 2 étoiles sur 5 parce qu'il a grillé un feu rouge, eh ben, il vous en a mis 1 parce que vous étiez complètement bourré à l'arrière de son Uber et que vos chaussures étaient dégueulasses. Oumar, CM2DF, que vous lynchez depuis 3 jours sur Twitter, a votre dossier client sous les yeux. Et il a qu'une envie, c'est d'appuyer sur publier à côté de la ligne. Cet usager ne met jamais son ordinateur en veille et laisse la lumière allumée quand il part en vacances. Le salaud. Et encore, toutes ces situations ne seraient que revanche mal placée. Imaginez un seul instant que Tinder décide de rendre public, juste pour voir si vous faites encore les malins, le score d'attractivité de votre profil.
Le score d'attractivité qu'on a découvert il n'y a pas longtemps.
Et bien sûr, vous aurez enfin un œil sur le classement des garçons les plus beaux de la classe et vous serez obligé de faire un contre-lef parce que votre nom serait bien trop loin dans la liste. Toutes ces notes, ces commentaires, ces scores existent. Soit générés par un algorithme, soit par les appréciations humaines. Ces données, elles se rajoutent déjà à celles que vous connaissez sur eBay, Blablacar ou Airbnb. Déjà là, parfois, elles font un peu mal. Alors imaginez toutes celles que vous ne voyez pas et qui pourraient être rendues publiques à cause d'un piratage, d'un dysfonctionnement ou simplement parce que tout le monde en a marre de votre arrogance. Imaginez un internet où tout le monde rase les murs, où le moindre dérapage est immédiatement sanctionné. Une sorte de loi du talion numérique, note pour note, review pour review. Chacun a des dossiers sur l'autre et le bouton rouge sous la main, prêt à déclencher le shitstorm de votre réputation. De l'économie de la confiance, on passerait au marché noir des casseroles, où les travers des uns et des autres se mèneraient sur le darknet. Personne ne veut ça, à part Daz. Alors, si vous ne voulez pas que le karma d'internet vous retombe sur la gueule, restez bienveillant, restez courtois, respectez les distances de sécurité et cédez la priorité à droite. C'est grâce au code de la route que les déplacements en voiture sont si sûrs. Sur internet, et ben c'est pareil.
C'est, t'as fait une conclusion pour ne froisser personne à avoir des bonnes notes en fait.
Ouais, mais en fait, non,
comme
parce que
c'est triste quand même.
Mais non, mais il y a 2 niveaux de lecture à la fin, lisez bien.
Lisa
ouais, mais moi je suis pas habitué au subtweet.
Et ouais, le code de la route il empêche pas les accidents finalement.
Ah, c'était ça le subtweet. Non, mais alors surtout la question c'est que tu passes d'une économie de la confiance qui était cool, qui est devenue oppressante, à une économie de la méfiance quasiment. Tout le monde est là, genre bon, si mon chauffeur Uber peut me noter. Bah si oui, le SAV peut me noter, si le community manager peut me noter, si mes pairs peuvent me noter.
En fait, si on commence à utiliser les notes comme une arme, pas de destruction massive, mais de mini-frappe chirurgicale pour se venger, je pense que ça va nous retomber sur la gueule.
Parce que depuis des années, c'est quand même l'usage chez les internautes de venir taper sur un film dans les commentaires sur Amazon ou de venir dire du bien d'un service sur Airbnb ou d'une personne sur Airbnb et de noter. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à se faire noter. Et exactement. C'est en train d'arriver du coup quand même.
Locataire dégueulasse. Non mais ça Airbnb t'es noté en tant
ouais,
que.
Ouais ouais t'es noté parce
justement,
que.
Justement Airbnb Uber sont un peu les premiers services.
Ouais.
Où les prestataires peuvent noter leurs clients en fait.
Uber aussi parce que
oui justement c'était que Hitch. Non.
Uber t'as une note mais il y a une petite feinte pour la demander sur.
Faut aller dans menu.
Ça oui.
Aide. Et après il y a un petit texte qui dit vous pouvez la demander machin, il y a un bouton envoyer, donc là tu penses que ça va prendre 2 semaines et en fait tu fais juste appuyer sur envoyer et là il affiche ta note. Ouais. Moi par exemple c'est 4.6. Donc là je le vis très mal parce
sur
que
5
je me... ouais parce que bah, je me va. Dis qui est le mec qui m'a pas mis 5, je suis hyper sympa. Tu vois. Donc au-delà de ta peur, au moins tu te poses des questions mais pourquoi
et encore là on est sur une première couche où on peut voir sa note mais elle est pas publique pour tout le monde. Ça veut dire qu'on peut pas.
Non, oui, personne voit ma note.
Est-ce que tous les autres peuvent voir la note de Mélissa sur Uber pour savoir que genre Mélissa est super cool avec Uber mais qu'elle est vraiment pitchy et qu'elle sait faire.
Non, pas encore, mais on peut imaginer qu'il peut y avoir des classements pour chaque service ou même un service qui rassemble tout
une salle de marché où les mecs s'échangent ça, tu vois.
Bah voilà, et puis c'est ta note d'internet quoi, c'est-à-dire que bah voilà, sur tous tes comportements partout, tes commentaires, les notes des services etc., et ben t'as 3,5 sur 5.
Alors, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt juste Mélissa ?
Mais à partir du moment où on paye pour ces trucs, que ce soit Uber ou Airbnb ou tout ça, autant Airbnb, comme tu offres le service et que t'es noté, qu'il y a un enjeu à terme, autant, tu vois, je vois mal ma banque ou genre SFR dire du mal de moi, parce qu'après je vais avoir envie de me casser et d'aller en face, tu vois. Mais du coup, il y aura une espèce de business de nous, venez chez nous, on vous met des meilleures notes, tu vois.
Ça va s'adapter. C'est pas ce que les assurances elles font déjà, faire des enquêtes sur toi, sur ta solvabilité.
De toute façon, toutes les entreprises ont des remarques sur nous. La question, c'est est-ce qu'on les publie ou pas? Est-ce qu'on va rentrer dans une société où c'est pas tabou pour une entreprise ou un service ou un prestataire de noter un client alors que ça s'est toujours fait dans un sens.
Non, mais la question
maintenant.
Du coup, c'est est-ce que ça se fait pas déjà sous le manteau entre professionnels?
Oui, ça c'est sous le manteau, c'est sûr, ça c'est sous le manteau.
Moi, je pense que dans un premier temps, on va pouvoir demander nos notes et nos appréciations. Parce
que
par exemple,
la première étape.
Une banque ou une assurance, elle peut te dire, ben moi, je te fais une réduc si t'as une meilleure note ou si
t'as
des meilleurs
commentaires, etc.
Voilà, je te fais des réductions sur les produits bancaires, etc. Par contre, avoir un truc public généralisé, je sais pas.
Fibre qui prend la parole depuis tout à l'heure.
Non, j'ajoute mon grain de sel. Je trouve que cette dystopie Big Brotherienne dans laquelle on est noté partout, il n'y a rien de plus beau au monde. Parce que.
Ça m'aurait étonné. Quand tu dis dystopie Big Brotherienne, je fais. Il va bander dans deux secondes.
C'est cochon. Non, mais parce que. Chibre parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Tout le monde, vous êtes noté de partout, mais à la française, c'est-à-dire on dit pas vraiment, on dit du mal dans votre dos, etc. Et là, vos notes, vous les avez publiquement. C'est-à-dire qu'on peut, on peut pas dire du mal de vous dans votre dos puisque vous avez votre note publique. Alors, si vous êtes un sale con, vous aurez une mauvaise note. Je veux dire, les applications qui ont des notes sur Apple l'App Store, par exemple, même les inconnues, elles ont 15 000 notes.
Ouais.
Donc, vous pouvez pas avoir 15 000 malfaisants. Vous allez avoir 2-3 trolls et vous allez avoir une moyenne qui correspondra vraiment à vous.
Ce qui arrive à des t-shirts ou à des films sur Amazon qui y a un buzz monstrueux et puis 300 000 personnes vont leur mettre une étoile ou 10 sur 10. Est-ce qu'un jour,
mais
toi, Fibrotti, qui t'es...
Ça arrive déjà, les One Direction, elles ont 5 étoiles qui partent dans le vide. Et il y a aussi autre chose, c'est que...
15 000 personnes malfaisantes ou bienfaisantes envers
toi,
Fibre.
J'ai pas compris cet argument.
Non, mais aujourd'hui, les LinkedIn, les CV, c'est un outil pour vous noter. C'est un outil crypté. Les DRH, ils lisent vos CV. Ils disent, celui-là, c'est une merde, même si vous avez fini l'état de truc bien.
C'est vrai que sur LinkedIn, après, sur LinkedIn, c'est 100% positif, on peut ce qu'on appelle endorse quelqu'un pour ses capacités, etc. Mais c'était une manière de noter ses pairs. Après, c'était 100% positif, c'est plus de la promo.
Ouais, tu peux mettre de négatif.
En plus, par exemple,
je t'ai endorsé pour fils de pute.
le truc pour noter, ce qui est important de savoir si un salarié il est bien ou pas, avant, surtout en France où un CDI c'est un boulet, eh bien, non, mais c'est vrai, embaucher.
Libre. Mets ton hashtag droit dur du futur, Fibre, quand tu parles comme ça.
Et rappelez-moi. Et les DRH, entre eux, quand ils parlent d'un salarié, ils ont un langage hyper crypté, d'ailleurs qui a été dénoncé par les tribunaux, parce qu'ils disent, par exemple, quand il y a un mec qui est vraiment limité, ils disent, ah, ce mec-là, il est bien, il fait de son mieux, tu vois. Oui. Quand tu dis ça veut dire que t'es un gros nul, tu vois.
Oui, mais encore une fois, là, on parle d'une notation, comme tu dis, sous le manteau ou codée, qui existe partout, puisqu'on est noté par nos banques, nos assurances, les RH, etc. Non, la question, c'était vraiment, qu'est-ce qui se passe quand on est publiquement noté? Vraiment,
ben justement, quand on est publiquement noté, c'est la fin de la guérilla de la note. C'est-à-dire que là, le conflit ouvert, et vous allez voir que ça va bien se passer. Parce que il faut avoir, je suis de droite dure certes, mais j'ai espoir en l'humain, et je pense que nous sommes tous bons et gentils, et qu'à terme, nous donnerons tous des bonnes notes.
Tout le monde va devenir hypocrite, du coup.
Bah oui, mais c'est l'équilibre de la terreur, c'est la fin de la
pense à une sorte de, comme un mec de droite, il pense à la main invisible.
Voilà.
La somme des intérêts particuliers. va aider l'intérêt commun. Et toi, Mélissa, t'es pas d'accord. Tu parles plus d'hypocrisie.
Mais non, parce que ça se voit déjà sur Airbnb, tout est amazing, tout est beau, tout est magnifique, parce que tout le monde a intérêt à ce que tout aille bien. En gros, quand t'as des souris, des fois, il y a des gens qui le disent, et quand c'est juste moyen, les gens disent, non, mais c'est trop sympa, parce qu'ils ont peur que l'autre en face dise non, mais en fait.
Donc là, tu retombes sur l'équilibre de la terre qu'évoquait Sylvain dans sa chronique, en fait.
C'est exactement ça.
Ouais. Et si on va plus loin, est-ce qu'on va pouvoir truquer ces notes comme des gens sur Airbnb ou sur Yelp ou sur TripAdvisor? Il y a bien des auberges qui se font des faux avis ou des hôtels.
Bah, quand ça sera.
Est-ce qu'on va arriver à un système où on va s'acheter des faux avis, des faux amis?
Je pense que oui. Quand ça sera, en fait, quand ça aura limite une valeur monétaire de paraître bien, ça va faire comme les vues YouTube ou les choses comme ça.
Ça gêne une valeur monétaire parce que sur les assurances voitures sont, par exemple, d'une certaine manière calquées sur ton comportement aussi.
Ouais, mais alors après, je sais pas dans quelle mesure avoir 1 500 000 malgaches qui disent que t'es un mec génial sur Airbnb, ça valide ton profil, tu vois. Mais je pense que oui, tu pourras truander pour essayer de toujours être positif, quoi.
Et il y aura toujours quand il y a des truands, il y aura des autorités de régulation indépendantes qui vont. C'est déjà le cas avec Amazon, etc.
Et même pas.
Donc tu auras des certifications.
Aujourd'hui, quand il y a un Twitter qui a 1 million de followers, tu le sens qu'ils ont été achetés. On a le nez, tu vois, et on le verra, les gens.
Parce qu'on s'en fout.
Kenza Farah, hashtag Kenza Farah.
Voilà.
Je veux bien Fibre.
Les fausses reviews sur Amazon maintenant sont puni. Tu vois, il y a un truc de certification chez Amazon.
Et TripAdvisor aussi.
Ça
TripAdvisor a puni aussi des restaurants et des hôtels de très haut de gamme pour avoir pris des faux commentaires. Bon, optimiste ou plutôt pessimiste?
Je crois vraiment à une plateforme, une norme de la notation qui va exister entre tous les services de l'économie collaborative et qui sera une plateforme où tu auras ton profil et ce sera un petit peu comme
un standard and core de l'humain, quoi.
Ça sera souvent
un peu comme ton clout, mais en mieux, quoi. Et ce sera ta fiche d'identité mondiale, ce sera associé à ton nom.
Et alors, comment, si jamais tu fuck up, c'est foutu à part ça?
Il faut que tu te rattrapes et c'est chaud parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir des critiques que des compliments.
On va avoir un casier numérique.
Notre futur orwellien sera merveilleux. Voilà.
On va s'arrêter là-dessus. Allez, une FAQ.
FAQ. La FAQ.
Notre futur orwellien sera merveilleux. Fibre.
Son épitaphe.
C'est 2016. Bon, tu me démarres très très fort. La troisième FAQ est aussi une FAQ très attendue et c'est celle qui a été le plus demandée par nos auditeurs. Ce sont ces fameux 10 000 signes de Twitter. Alors que ce soit sur Twitter et même sur Facebook, on nous a dit, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça veut dire que Twitter c'est Facebook? Etc, etc. Je suppose que vous avez votre avis dessus. Est-ce qu'on peut le faire de manière synthétique? Mélissa?
Ça ne va rien changer.
D'accord. Pour toi Mélissa, ça ne changera rien?
Là, ils voient juste des JPEG.
Oui.
Qui sont postés déjà avec.
Des JPEG de texte, hein, tu veux dire.
Des JPEG de texte où les gens résument ce qu'ils veulent dire.
Oui.
Et ben, ils vont faire la même chose. Ça sera comme une image ou une vidéo embédée dans un tweet. T'auras toujours tes 140 signes de tweet plus ce qui était un JPEG et qui deviendra une note référencée dans Google.
Ouais, je suis plutôt d'accord. Ok, pour Mélissa, donc c'est plutôt cool et ce sera bien intégré. Fibre.
Pour moi, c'est la fin de Twitter. Mais, et ça, c'est un appel au secours. C'est-à-dire, ils sont désespérés, ils savent pas quoi faire.
Pour moi, de prendre tout à repose-poil.
Pour moi, Twitter est en train de mourir. Non, mais d'ailleurs,
on sent que t'es plus trop dans le game.
Exactement, je suis en train d'abandonner Twitter. Et pourtant, je l'ai aimé de tout mon cœur.
Ah bah, tu as plus qu'aimé, c'était ta raison de vivre.
Il est vraiment de droite, le mec. Hein. Aucun problème, on enterre les symboles. Vas-y, mec. Vas-y, continue.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas soutenir cette entreprise américaine.
Ah bah oui.
Alors que Snapchat, c'est une entreprise californienne. D'accord, donc pour toi, Fibre, c'est la fin. Non, mais ok, très bien. Donc pour Fibre, c'est la fin. Ça mettra un vrai grand débat tout ça. Sylvain,
si ça peut remettre un peu de piment dans Twitter, ça peut être pas mal parce que moi aussi je commence à me faire chier.
D'accord, très bien. Donc pour toi, toi Sylvain, entre les deux, c'est que tu crois comme Mélissa mais tu te fais un peu chier comme Fibre.
Ouais, c'est ça.
Très bien. Daz,
est-ce que vous avez entendu ce bruit là? C'est celui du cadavre du CEO de Storyfy qui vient de se jeter du haut de son building.
Storyfy, c'est encore vivant, ça?
J'en lis pas mal. Hein.
Pour moi, plus que la note, genre le copy screen de l'application note de l'iPhone ou de trucs comme ça, embédé dans un tweet, c'était plutôt des Storyfy que je voyais passer.
Mais non, mais Storyfy, t'agrèges différents types de contenus. Oui.
Mais là, c'était genre, moi,
ce serait que du texte, normalement.
Storyfy, en général, quand on parle, c'est...
Le vrai concurrent de Storyfy, c'est les Twitter Moments. Espèce de curation de Twitter. Bah, Twitter va faire une espèce de... Tu peux assembler des tweets.
Autour d'un
c'est vraiment
thème,
pareil
d'un
que
d'une marque, ça te fait un assemblage de tweets.
Sinon, moi, non, sur les 10 000 signes, moi, j'ai du mal à voir comment ça peut se... Si c'est pas un truc pour raconter quelque chose qui s'est passé, pas dans le moment, pas dans l'instant, j'ai du mal à voir un peu comment ça va s'accorder avec le tweet en tête, en fait. Tu vois.
D'accord. Bah, genre, j'ai un truc à vous dire. Paf.
Ce qu'ils auraient dû faire, c'est des tweets vidéo qui s'effacent au bout de 10 secondes, voilà.
Moi, je serais triste si ça tue la tweet story.
D'accord.
Le fait de se répondre à son tweet et d'en faire 15.
La tweet story, d'ailleurs, qui est un peu l'ancêtre de la story Snapchat.
C'est vrai.
Ok, bah voilà, on a nos avis. Je pense que globalement, il y a un petit ras-le-bol de Twitter et il y en a qui espèrent, il y en a qui le confirment.
Twitter, j'aime bien, moi.
Ok.
Bah oui, tu es en train de monter en follower.
Ouais, j'en ai 2000.
Oh. Allez, on attaque tout de suite la troisième chronique.
Sujet numéro 3.
Avons-nous vraiment attendu les réseaux sociaux pour mentir sur nos vies?
Et c'est Mélissa.
Ouais, le titre.
Quel pitch.
Mélissa qui parle de réseaux sociaux, de mensonges. De vie, hashtag vie en général.
Non, mais je parle de la vraie vie, justement.
De la vraie
hashtag
vie.
La vraie vie.
Je vais vous raconter ma vraie vie déjà.
Déjà, sans mentir.
C'est hyper sexy.
Vas-y.
Il est 7h30.
Bah, déjà, c'est pas sexy. On
voilà.
Passera tout de suite.
C'est ma vie en ce moment. Je suis dans mon lit, j'ouvre mes mails, je check Twitter, je clique sur des liens. Le plus souvent, j'irai ensuite remonter ma timeline Instagram, quelques likes, rarement Facebook. Et donc pas Snapchat. Puis j'ai Twitter, Facebook, ensuite ouvert toute la journée. J'y discute avec des amis et des collègues et j'organise mes soirées. Je m'amuse et je m'y énerve contre Daz souvent. Enfin, ça m'est arrivé en tout cas récemment.
J'ai vu ça, je crois.
Moi aussi.
Si je vois un truc dans la rue, quelques formes qui s'alignent, je ne suis pas la Mua, mais je vais peut-être poster une photo ou juste la prendre et la poster plus tard. Ça fait à peu près 6 ans que ma vie se déroule ainsi, et j'ai bien dit ma vie. Parce que ça fait des mois, en fait, qu'aux réunions, je m'énerve contre ceux qui disent, en fait, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie.
Ça reste un des grands marronniers des pros des Antilles.
C'est comme les trucs sur les jeux vidéo et la violence. Il y a plein de gens qui disent ça. Le dernier exemple en date, en fait, c'est, vous en avez tous entendu parler, c'est cette jeune Instagrammeuse qui s'appelle Essena O'Neill, qui est australienne, qui avait 500 000 d'abonnés donc sur Instagram et qui a décidé du jour au lendemain de...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Supprimer ces photos parce que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Alors sur son nouveau, en fait, vieux compte Instagram épuré de ses anciennes photos, parce
nouveau,
que en fait elle l'a killé à moitié, donc il reste 15 photos, elle explique les coulisses d'une image d'elle en maillot de bain. Pour faire cette image, elle a pas mangé pendant une semaine, elle s'est acheté le maillot de bain qu'elle porte spécialement pour cette photo, et elle a posé des heures pour que l'image soit parfaite. Elle a donc bien fait toutes ces choses, ouais, mais ne les a pas montrées sur Instagram, ce qui m'a poussé à me demander... Mais c'est quoi sa vie, en fait, à elle. Alors là, c'est l'instant philosophie. Sachez que j'ai jamais autant réfléchi pour une chronique, même si ça se sent pas. Donc, cette image en question...
On fait des bruits de cigales ou pas?
Cette image en question, c'est une représentation de sa vie, pas sa vie, nuance. Oui, elle a changé sa vie pour prendre cette image, mais vous savez pourquoi? Parce que porter un maillot de bain, avoir l'air belle, porter une robe, c'est ce qui, dans son esprit malade, qui a besoin de validation, qui pense que maigreur égale beauté, lui a permis, un, d'être suivi, et deux, d'obtenir des cadeaux, aka des dollars, aka dollars, une forme de revenu. Et quand elle en a eu marre, en fait, de toute cette pression qu'elle se mettait, devinez où elle allait pleurer? Dans une vidéo de 17 minutes postée sur YouTube. Oui, un réseau social, messieurs, dames. Les réseaux sociaux, ce serait donc son problème et sa solution.
Ouais, en gros, elle a bien tourné en rond, quoi.
Voilà, c'est magnifique. Alors, elle a extériorisé, donc, précisément grâce au canal qu'elle critique, hein, elle a fait sa catharsis. Preuve, en fait, s'il en est, qu'elle ne peut pas se passer de tout ça. Son autre solution, c'était un site internet. Oh, wait. Le site s'appelait Let's Be Game Changers. Soyons des gens qui changent les choses.
Elle a quel âge? Elle est jeune?
Elle a 19 ans.
Ah oui. Oui,
un site, super sympa où il y a à la fois de la promotion du véganisme, de la dénonciation de la célébrité sur les réseaux sociaux, donc, hein, parce que c'est vrai sujet, et de la défense de l'environnement, le tout en publiant des vidéos d'elle qui n'est ni maquillée ni coiffée, autrement dit décomplexée, la vraie vie, quoi.
Si jeune est déjà chiant.
Voilà. En fait, elle a fini par fermer son site et son Tumblr et ce qui lui restait d'Instagram parce que Internet l'a qualifiée d'opportuniste, en fait, parce que tout le monde a parlé d'elle,
ah
en
bon
disant genre, elle a dit je pars, elle est pas vraiment partie, elle est revenue avec un autre site où en plus elle demandait du blé, donc tout le monde lui a dit qu'est-ce que tu fous, grosse conne.
En fait, elle a tout compris, c'est bien ça.
Tout en disant c'est la vraie vie, preuve que ça touche encore plein de gens cet argument.
François Copé.
Bref, tout ce qui notons quand même dans tout ce buzz, c'est que ce qui avait changé, c'était le contenu, mais pas le contenant. Et
d'accord,
donc pas les réseaux sociaux. Cet exemple, en fait, qui a buzzé, vient nous rappeler qu'on a toujours menti ou embelli sa vie, comme on le fait aujourd'hui sur Twitter ou sur Instagram. Même avant les réseaux sociaux, on disait toujours « oui, tout va bien » ou « je suis débordé au boulot », alors qu'en fait, pas du tout. On ment. C'est comme ça qu'on vit, on améliore la réalité. Alors bien sûr, avec la généralisation des profils, des statuts, des photos toujours belles et positives, CF le compte Instagram de la Mua, on a compris en quelques années que ce n'est pas la vraie vie, que ce sont que des images prises à un instant T, que c'est ce qu'on choisit de montrer de notre vie, et ceux que ça déprime encore, en fait, c'est ceux qui déprimaient déjà devant les pages de magazines de mode en disant « je ressemblerai jamais à ça », et ils s'énervent toujours contre les réseaux sociaux, ces grands méchants. Donc oui, aujourd'hui, on fait des choses pour le like, c'est souvent, en fait, pour se rassurer, parce qu'en fait, nous sommes névrosés, et les réseaux ne sont que le canal pour extérioriser nos belles névroses, un terreau très 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 fertile. Il y a des années, on se cachait derrière des pseudos. Aujourd'hui, on connaît toujours pas le nom de Fibre Tigre, mais on connaît presque toute sa vie sur Snapchat. il dit tout sans filtre, il nous l'a dit dans sa chronique. Il nous a quand même dit en off sur Slack, parce qu'on fait quand même des chroniques pour révéler le off de Slack, que c'était des asymptotes de la réalité, qu'il y avait quelques petites nuances dans ces snaps sur la vraie vie.
C'est bien dit.
Très belle formule.
Ouais, c'est très joliment dit. Mais enfin bref,
Il trichait un petit peu,
mais comme on triche un petit peu tous les jours, voilà. Donc, en fait, tous les 5 autour de la table, Ghislain est avec nous aussi, tous les 6. Twitter, en fait, nous a donné quand même des opportunités de boulot. Nos calendriers sont en partie organisés selon nos events Facebook. Combien d'entre nous n'ont jamais dit en soirée « Ah oui, je te connais via les réseaux, salut !» lors d'une première rencontre, comme on aurait fait il y a 10 ans si on rencontrait quelqu'un à la nuit d'un pote dans un bar. En gros, les réseaux génèrent les mêmes situations qu'il y a 10 ans. Notre vie a bougé, mais c'est toujours la même. C'est la vraie vie, elle s'est juste adaptée en fonction des outils. Donc arrêtez de critiquer le canal, guérissez vos névroses, les réseaux sociaux, c'est la vie, la vraie.
C'était costaud.
Bah, j'ai essayé de vous montrer ce qui s'est passé dans mon cerveau, mon argumentation, mais...
Je suis plutôt d'accord avec...
Alors Daz.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec cette argumentation.
Là-dessus, c'est genre ne tirez pas sur le messager, quoi.
Bah ouais, c'est... On fait pas la différence entre ce qui se passe sur Internet et la vraie vie, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire dans Studio 404, que le IRL et le en ligne, c'est la même chose pour nous. Et du coup, moi, je valide complètement, ouais. On travestit un peu sa réalité pour
on l'a travesti de toute façon.
Ouais, tu mets que les bons trucs, Sincèrement, moi, quand je vois quelqu'un qui est vraiment full disclosure sur sa vie, tu vois, quand je lui parle en conversation en tête à tête, que la personne elle me raconte tout, je me sens un peu mal à l'aise quand même. Je préférais que tu me mentes que
le tact, quoi.
Ouais, tu vois, c'est le côté malaise.
Filtre.
Fibre.
Je trouve que la question de la vérité et du mensonge n'a aucun intérêt.
D'accord.
Allez.
Parce que premièrement, je trouve que le seul but qu'on devrait avoir, c'est d'avoir de l'audience, d'avoir des followers.
Débranchez-le, putain.
Laissez-le parler.
Et dans ce cas, moi, si vous voulez, si je suis en mode Truman Show sur Snapchat, c'est parce que ça marche. Okay. S'il fallait raconter des histoires magiques sorties de nulle part, c'est ce que je ferais.
S'il fallait se maquiller, tu le ferais?
Je suis pas youtubeuse mode pour certaines raisons.
Mais si, non, c'est sexiste, ça marche, donc tu pourrais faire ça.
Non, mais il faut que ce soit compatible avec ce que je peux faire. Tu peux faire le tag girlfriend, par exemple. Non, mais la jeune fille de 19 ans, là où elle nous domine tous de son game, c'est qu'effectivement, peut-être que fondamentalement elle vit ça, elle se pose des questions, peut-être qu'elle en a rien à branler et que tous ses rabia et ses caprices, c'est au contraire pour attirer l'attention et qu'au final, Mélissa, ça, scène de corps et d'esprit, fasse quand même une chronique sur elle. Donc
Pas une chronique sur elle, je fais une chronique sur son argument.
Ouais. Donc,
Avec elle en exemple. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, là où je suis un peu d'accord avec Philippe, c'est qu'elle avait dit fuck, on ment pour se faire voir, pour en fait, comme tu disais, Mélissa, recréer des sites.
Mais Jay-Z, il a fait pareil avec le Black Album, le mec, il arrête pas de partir.
Stratégie de promotion, mais moi, ce qui me tue dans son truc à elle,
c'est que son argument
fonctionne toujours si bien sur les gens, quoi.
Enfin, il faut le dire, Mélissa, il a eu beaucoup d'écho quand même, son argument.
Parce
le côté genre la vie sans filtre.
Ah oui, bah vous voyez, ça, c'est un parfait exemple, tu vois.
Si je devais faire.
Tu peux le démonter en deux secondes.
Une psychanalyse de Mélissa, c'est qu'elle a un problème, c'est qu'elle, c'est une journaliste qui est jeune. Donc elle est obsédée par la vérité, les faits. Et quand on est vieux et cynique comme moi,
on sait qu'on a croqué à droite à gauche.
Mais ce que je dis, c'est que justement on fait des mini mensonges tout le temps.
C'est tout l'objet
de ma chronique.
Oui, mais je veux dire, tu es obsédé par la vérité.
Je suis pas obsédé par la vérité, je te dis la vérité et le mensonge.
C'est quoi? Tu vois, on se pose pas la question. C'est une danse, c'est obsédé par la pseudo-réalité, c'est une danse cosmique.
Sylvain, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, la chronique de Mélissa, son point de vue sur tout ça.
Tous les points qui sont abordés par Mélissa, moi, c'est ce que je défends depuis des années, donc ça me va totalement. La représentation de soi, le fait qu'on n'est jamais soi-même, mais qu'on porte des masques de successifs, et le fait que les réseaux sociaux et la vraie vie de toute façon soient exactement la même chose, pour moi c'est 100% d'accord. Mais en même temps, je suis d'accord avec Fibre qui dit qu'il n'y a pas vraiment de vérité, il n'y a pas vraiment de mensonge. Par contre, je ne suis pas d'accord pour dire qu'on fait tout pour l'audience. Mais je pense que tous ces gens, au lieu de suivre d'autres gens sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils devraient se faire suivre par un psychiatre.
Pour défendre un petit peu Fibre et pour rebondir sur cette idée de scoring, est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas quand même exacerbé, on en parle un peu dans la chronique, ils changent pas le fait qu'on mente un peu sur notre vie, notamment pour l'embellir ou inversement pour la dramatiser, mais est-ce qu'ils ont pas un peu exacerber le jeu avec le scoring que tu vois en live, c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre de réactions, le nombre de vues, le nombre de followers, etc. Est-ce que ça n'a pas donné envie aux gens de vraiment y aller plus fort dans la mise en scène et dans le mensonge?
Si, si, complètement. Là-dessus, notamment sur les réseaux qui permettent de partager vraiment de l'image,
ouais.
C'est la folie. Enfin, on connaît tous des junkies d'Instagram qui ne sont pas tranquilles tant qu'ils n'ont pas le nombre minimum de likes requis et qui sont prêts à retirer la photo si le barème n'est pas atteint pour paniquer leur moyenne. Quoi.
Ce que ça a changé, c'est que tu as un retour direct. T'as un retour direct de sur ta névrose, quoi. T'as un score de névrose.
Enfin, tu vis pas comme... On a déjà les scores utilisateurs évoqués par Sylvain, on aura le score de névrose de Mélissa. Là.
Tu vis pas comme une névrose, mais t'as un retour direct, quoi, dans la seconde. C'est genre, c'est bon, t'as validé, tu vois, c'est bon, ça va aller.
C'est comme si tu...
Je pense qu'il y a des gens que ça soulage vraiment dans la vie, quoi.
C'est comme si tu racontais ton week-end au bureau et qu'il fallait impérativement que 10 personnes trouvent ça intéressant, tu vois, sinon tu dis pas...
Yeah!
J'ai passé une bonne semaine.
Ça a l'air cool, wouh!
T'as plus besoin de réunir 10 copines, tu vois, t'as 10 likes.
D'accord, mais alors du coup, là, on évoque une autre versant de notre relation réseau social qui est la demande de validation dont tu parlais dans ta chronique, mais qui peut créer aussi du mensonge, encore plus de mensonge. Moi, en fait, la question, c'est le mensonge était toujours présent, c'est ce qui est encore plus présent, plus exacerbé, plus travaillé, plus sophistiqué, etc.
Je pense qu'il l'est quand même un peu, ouais. Plus que tu sais ce qui, comme Fibre Tigre qui calibre finalement son contenu par rapport à ce qui fonctionne, tu fais pareil, tu sais que voilà, ce petit macaron pastel sur cette assiette en porcelaine à l'île au pays des merveilles va récolter au moins 150 likes dans les 12 secondes, tu vois. C'est...
Donc, même si tu mangeras jamais ce truc.
Non.
L'équation, elle est très simple. En fait, la mise en scène de elle est très très liée à l'interaction sociale.
Ouais.
Les réseaux sociaux, ils permettent de multiplier les interactions sociales. Donc, forcément, ça exacerbe la mise en scène de soi.
C'est Fibre.
Moi, je trouve que vous êtes tous très bien habillés ce soir, très élégant. Vous avez fait comme d'habitude. D'ailleurs, moi,
je suis
un peu moins le moins élégant à chaque fois.
Je suis en train de mettre
en
scène.
C'est aussi pour bien présenter, c'est-à-dire que vous vous préparez,
que
vous
des beaux habits, c'est tout.
Et moi, je trouve que les réseaux sociaux, non seulement, pourquoi c'est exacerbé ? Parce que non seulement on est dans le jeu et qu'il y a des incentives pour ça, mais aussi parce que c'est très facile faire un tweet ou un snap qui module la réalité pour vous attirer de l'audience.
Oui.
C'est beaucoup plus simple que de bien s'habiller.
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est
donc
pas bête.
Aujourd'hui, enfin les beaux vêtements, c'était les réseaux sociaux de 1492. Donc aujourd'hui,
eh ben oui.
Pourquoi 1492
parce que c'était la couleur de l'Amérique.
Non, avec vos paniers, vos plumes. Ça va pas donner de likes, ça, les cocos.
Oh, la honte.
Bah si les Indiens d'Amérique, ils étaient blancs, ils étaient habillés comme nous, et ils avaient eu des croix catholiques, on n'aurait pas osé les mettre en esclavage. C'est-à-dire, c'est des choses très simples, hein. Voilà.
Mais, là, il vient de remonter trois fois là. Bon, je pense que c'est si Sliders faisait un épisode de Sliders, spécialement avec tout le casque de Sliders de toutes les époques.
Toujours est-il que pour vous dire que c'est aussi la facilité à mentir.
D'accord.
Voilà.
Ok, c'est intéressant. Bon, on finit là-dessus ou pas? C'est pas mal.
Est-ce que si quand tu sortais de chez toi, on t'avait dit par exemple ce hoodie la magnifique que tu arbores, si on t'avait dit qu'il était moche, tu arrêterais de le mettre ou pas?
Mais
est-ce que tu t'habilles pour les autres ou est-ce que tu t'habilles pour toi, Fibre?
Mais aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt puisque il y a l'internet. Mais si on était en 1986, j'aurais dit oui. Excuse-moi, je vais changer de hoodie.
86, c'est quelle date du coup? C'est la découverte de quel pays là? Attendez. Bon, alors ça va être là-dessus. On pensera à 1986, au look et aux réseaux sociaux de 1986.
FAQ.
Dernière FAQ de la part de Cyril K, qui est un des fidèles de l'émission, qui nous dit: imaginez, un message tombe, dans une heure, on ferme définitivement Internet. Que feriez-vous de cette dernière heure? Sylvain qui ricane immédiatement, il vient de dire: je me branlerai pendant une heure.
Non, attends. On va trouver un moyen plus joli de dire
Fibre.
Ça.
Je réponds très pragmatiquement, je télécharge, je fais Google Takeout.
Ouais.
Il faudrait que vous fassiez d'ailleurs tous, chers auditeurs, tous les mois.
C'est-à-dire
sauvegarde de toute ma Google Archive, j'en ai 10 gigas aujourd'hui.
D'accord.
Je travaille tout en ligne, j'ai tout.
D'accord,
tous mes
donc toi,
là.
Pragmatique, t'archives, voilà. Tu récupères tes archives. Très bien.
D'ailleurs, il a raison, Fibre, ça s'automatise, faites-le, programmez-en un par mois. C'est important.
Okay, moi, c'est marrant.
Mais c'est quoi l'intérêt de sauvegarder du cloud?
Parce que si la France rentre en guerre contre l'Amérique, Google va plutôt
tomber. D'accord.
On s'en fout, on aura Fleur de l'OS. Pour résister. Non, ce sera beau.
L'OS souverain.
Ouais, je trouve que, tu vois, enfin, sauvegarder le cloud, c'est comme protéger un iPhone en métal avec une coque en plastique, c'est complètement con.
Bon, qu'est-ce que vous feriez, vous autres, c'est là plutôt d'accord avec Fibre?
Il reste une heure avant la fin d'Internet.
Une heure.
Faut que je réfléchisse.
Moi, je sais déjà, moi.
Daz.
Moi, je sauvegarderai toutes mes photos Instagram, par contre.
Parce d'accord. T'irais chercher aussi comme Fibre, en fait.
Mais là, c'est différent. Non.
Tu t'es moqué Fibre.
C'est différent parce que
les photos de sa fille.
Les photos Instagram, moi, ça me permet d'avoir des jalons dans ma vie.
Je suis d'accord, ça c'est très intéressant sur Instagram.
Donc, journal intime,
ça pourrait être l'objet d'une chronique.
Ok, d'accord, très bien. Donc, Daz, récupérer ses petites photos Instagram. Enfin, seulement celles avec plus de 150 likes, parce que les autres, tu les...
Oh bah jamais, alors. Oh,
bah, les autres, on s'en fout.
Aucune.
Mélissa, Sylvain, ils savent pas, ils ont dit, j'ai trop de choses à faire. Comment j'ai fait pendant une heure?
Du porn, du porn.
C'est les priorités,
ils sont en train de se balancer d'avant en arrière en se tenant la main.
Déjà, ils veulent pas voir le truc, ils sont là genre, oh.
Ça ne peut pas arriver.
On a une petite goutte de sueur le long du front, là, je pense.
Quand t'expliques à quelqu'un qu'il y a vraiment rien après la mort, vraiment, il y a vraiment, vraiment rien du tout après la mort, mais pour l'éternité.
Non, mais notre cerveau n'arrive pas à réaliser que c'est possible.
Attends, mais ça peut être une réponse. Tu serais peut-être bloqué en position fétale en train de te balancer d'avant en arrière pendant une heure, tu vois.
Moi, je pleure.
Ouais, déjà, tu vas sur Ghostbuster. Est-ce que c'est vrai?
Mais ça pleure.
Non, mais je pleure. Après, je me dis, est-ce que je chauffe mes articles? Non, enfin c'est pas la priorité, clairement pas. Du coup, je sais pas, genre.
Les articles de Slate. Ouais, je te confirme.
Putain, mais <t'as... rire> est-ce que tu t'es mis un petit défi, genre faire un check à Mélissa?
Tout le temps,
Sylvain.
Moi, j'essaye de sauvegarder le maximum de choses, donc Dropbox, Samster, Google Docs, ouais, tous les trucs qui rapportent de l'argent.
C'est marrant. Ouais. Donc vous avez rien en local, vous avez tout dans les nuages.
Ah, ouais, moi, je suis à fond au nuage.
Bah, Dropbox, c'est à moitié local, de toute façon. T'as quand même un truc local.
Tu l'as en local.
Ouais, donc je le sauvegarde pas. Non, je.
Ah, mais si c'est face en ligne, du coup, il va vouloir répliquer le vide de la ligne par.
Je poste un message sur Facebook. J'ai perdu mon téléphone. Renvoyez-moi vos numéros, s'il vous plaît. Et comme ça, je récupère tous les numéros de tout le monde.
Mais non, parce que
le temps bah, pas tous mes amis Facebook.
Le temps de les noter, t'auras plus Facebook, tu auras plus d'internet.
Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on aurait même plus à penser comment on ferait sans. Ça prouve
le mec veut plus avoir internet, qu'est-ce qu'il fait? Il poste un statut sur internet, quoi.
Mais oui, il reste une heure pour que les mecs m'envoient leur numéro.
Et donc, rien de taquin ou rien de genre, pas une pirouette, genre, bah, je me fais un rapid share en mode free download à 3h50. Vraiment, non, et je le regarde ne jamais se finir, quoi, tu vois.
Genre, un truc un peu artistique.
Ouais,
quoi.
Un truc un peu artistique, tu vois, je fais.
Un peu absurde.
Je lance un truc qui, de toute façon, se finira pas en une heure, un truc un peu laid.
Ah, moi, je vais sur eBay et je trouve, des Minitel de case. J'achète plein de Minitel.
Un dernier stream.
Putain, le mec, il est dernier survivant.
Ah ouais, d'accord.
Jusqu'à la mort, tu vois.
Un 404 en stream, monde. Là. Mais personne ne le verra, il y aura plus d'internet.
Cam.
C'est génial.
On fera un dernier 404 en stream en live.
Sujet numéro 4.
La voiture autonome risque de nous conduire bien plus loin que prévu.
Tutele, et qui est au volant? C'est Papa Daz. Et j'allais dire, qui est au volant avec son gros bras sur le volant? Mais non, puisqu'il n'y a plus de volant. Alors, Daz, tu nous conduis sur cette chronique.
Arrête de spoiler. Ouais.
Mais on parle de voiture autonome.
C'est ça, parce que la presse moldue, elle en parle beaucoup. Les années à venir seront placées sous le signe de la voiture autonome.
Celle qui se conduit toute
Donc
seule.
Celle qui se conduit toute seule. Chez Business Insider, on avance même le nombre de 10 millions de ce type de véhicules d'ici 2020. Nous sommes en 2016. Il reste donc 4 ans à Tesla, Google et consorts pour faire en sorte que leurs véhicules, dont certains sont déjà sur nos routes, comptent encore moins de débrayage du mode automatique que les scores actuels relevés ce mois-ci par PCMag. Petit indice.
Rien compris.
C'était la blague de Daz que personne n'a compris.
C'est pas une blague. En gros, bon,
je crois que t'avais mis un lien dans ton.
Ouais, il y a un lien, mais parce que c'est sourcé cette chronique. Mais non, mais.
Oui, en gros, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien hypertexte en audio, Daz.
Ben, c'est
les
dommage.
Gens peuvent pas dire, tiens, j'ai pas compris ce qu'il a dit.
Ah,
je vais cliquer sur sa voix.
2.// et t'as une synthèse vocale qui te dit le lien. Non, en fait, concrètement, ce que je voulais dire par là, c'est que.
Elle commence bien cette chronique.
Oui, mais enfin, en même temps, vu le public, ça m'étonne pas trop que vous compreniez pas. C'est le sujet un peu technique. Comment est-ce que Google, Tesla et compagnie réussissent en fait à scorer ou avoir un score sur est-ce que leur fonctionnalité fonctionne bien? C'est en comptant le nombre de débrayages du mode automatique, c'est-à-dire le nombre de fois où les gens reprennent le contrôle de leur bagnole.
D'accord.
On dit oh putain, et voilà, et ils mettent un coup de volant pour revenir sur la route.
Ok.
Donc il reste 4 ans à toutes ces entreprises pour améliorer ces scores qui sont donc révélés ce mois-ci par PCMag. Petit indice, ça progresse, mais c'est pas encore ça.
D'accord.
C'est-à-dire que pour l'instant, si vous laissez la machine décider pour vous,
vous mourrez.
Vous irez pas jusqu'en 2020. Voilà. Alors un jour, je consacrerai une chronique pour expliquer pourquoi une voiture totalement autonome ne sera jamais mise à la disposition du grand public avant 2035, au bas mot. Un jour. Mais vous nous connaissez, nous à 404, n'aimons pas tant parler des technos que des nouveaux usages qui peuvent en découler. Et quand on dit voiture autonome, notre think tank se met à siffler comme une bouilloire arrivée à température. Parce que pour l'instant, les voitures autonomes, elles sont un peu bif-bof. Électrique ou pas.
Bif-bof.
Ouais, bif-bof, c'est comme bof-bof mais en bif. Quoi. Électrique ou pas, elles ont toujours 4 roues, un volant, des portes de chaque côté et puis ces machins transparents là, et vitres. Aucun constructeur ne s'est risqué à sortir un modèle un peu disruptif. Pas étonnant pour Mercedes, Audi ou BMW, l'allemand n'étant pas fou. l'Autrichien si, mais un peu plus pour Google, malgré la bouille sympa de leur Google Car, ou Tesla, pour laquelle l'ami Elon Musk, idole de Sylvain, cale des écrans de 17 pouces dans la planche de bord, mais sort des carrosseries encore moins bonnes que la moins bonne de tes Audi. Alors oui, Presse Moldu, tu as raison, la voiture autonome pourrait mettre encore plus de gens au chômage, parce que la Presse Moldu s'intéresse vachement à ces phénomènes économiques, notamment les survivants de la première vague, ceux qui auraient résisté à la déferlante Uber. Pensez donc, la voiture autonome pourrait ubériser Uber. Incroyable. Pour aussi profonde et impactante qu'elle soit, ce sont encore des considérations que nous, on considère un peu trop terre à terre.
Nous, on est vraiment trop loin dans le game.
Voilà, nous, on réfléchit hors de la boîte, nous, on est comme ça. À l'image des téléphones mobiles qui ont d'abord dû se cogner jusqu'au bout l'étape téléphoner sans fil avant de s'ouvrir à d'autres horizons, que l'on parle de se localiser, de se divertir, draguer ou autre, il est clair que pendant quelques temps encore, seule la partie soulager le conducteur sera à l'ordre du jour pour nos voitures autonomes.
Ouais. Soulager le conducteur.
Soulager le conducteur, oui, bah, bien sûr. Mais je savais de toute façon que je me suis dit, il y en a bien un qui va faire une vanne. Voilà. Encore plus quand on connaît la frilosité propre au marché de l'automobile par rapport à celui de la téléphonie qui est super funky comme chacun sait. Du coup, fast forward vers cette époque bénie, éloignée de toute considération rationnelle.
Donc là, on est loin.
Là, on est loin dans le futur. Là, on est en 2036. Voilà. Donc, premier cas évident, la conduite sans les mains, ok. Mais pas pour aller chercher sa baguette comme un perdu de la life. Non. Nous, on pense long courrier. Imaginez, vous tapez Singapour et go sur Google Maps et vous n'avez à vous soucier de rien si ce n'est de finir tous les Assassin's Creed en attendant d'arriver. Génial. Superbe voyage. Imaginez, vous faites pareil sur Apple Plan et vous vous retrouvez à Dnipropetrovsk. L'aventure, la vraie, parce qu'en fait, Apple Plan, c'est de la merde, même en 2036. Mais ça, c'est pas encore assez disruptif. Alors, on va aller plus loin. Nous, à 404, on rêve d'une voiture sans vitre. Parce que ça sert à rien, de toute façon.
Tu rêves d'une voiture sans vitre.
Ouais, on rêve tous d'une voiture sans vitre. Les vitres, ça sert à que dalle, on regardera plus la route. À la place, on pourrait avoir des écrans OLED. Partout. Ouais. Donc, à la place des vitres, sur le plafond aussi, sur le sol. Ouais. Pour pouvoir mater des films allongés au calme ou jouer à Daytona USA. Meilleur jeu de la Terre.
Donc, en 2036, tu joueras à Daytona USA. Tout ça ouais. pour ça, quoi. Ouais. Tout ça pour jouer à un jeu de voiture dans ta voiture sans fenêtre.
What ouais, mais pas n'importe quel jeu de voiture.
Là, t'es pas outside the box, là.
Daytona
t'es
USA,
raison, là.
Les gars. Daytona USA. Mais surtout, sans vitre, votre voiture pourrait vous tuer du lit encore en pyjama à 7 heures et vous laisser finir votre nuit dans les bouchons pour vous déposer à 9 heures au boulot, frais et dispo. Ça, c'est un rêve de la MUA. Sans vitre, votre véhicule pourrait vous rapporter des bitcoins en servant d'hôtel de passe roulant quand vous l'aurez inscrit sur prostituteo.fr, le site qui met en relation des prostituées et des voitures autonomes. En l'inscrivant sur...
Des prostituées autonomes aussi, du coup.
Bah, bien sûr, bah, elles sont complètement à leur compte et dans le respect de la loi et du genre humain. En l'inscrivant sur pechoeo.fr, il pourrait aider des dealers à passer au 21e siècle en acheminant à domicile les substances commandées en ligne par les clients. Grâce à gofasteo.fr, votre voiture pourrait faire des allers-retours chef Chaouin Paris pour rendre service aux grossistes de votre quartier pendant que vous êtes au boulot. Pensez-y avant le législateur. C'est comme ça qu'on se fait de l'argent de nos jours. Virer les vitres, c'est bien, mais ça suffit pas. En ôtant le volant et la traditionnelle planche de bord, vous libérez de l'espace.
Ben oui.
De lieu de transport, votre véhicule devient un lieu de vie.
Ben hey.
L'espace gagné peut être utilisé pour caler une rampe de spot, des platines et un dance floor, et participer aux road parties qui ne manqueront pas de se lancer. Imaginez 250 véhicules en file indienne sur l'A1 qui partagent la même playlist mixée en live sur YouTube, Twitch, ou alors vraiment, on est futuriste, Dailymotion. Même David Sinclair n'y a pas pensé.
C'est vrai, une grosse road party sur l'autoroute.
Mais oui, une road party, on bloque toutes les files et tout, c'est génial. Imaginez des tournois de Street Fighter X en roulant. Alors ok, les esprits chagrins et les contrôleurs de gestion, c'est un synonyme. Nous parlerons d'assurance, de sécurité routière et autres prises en compte de l'environnement immédiat. Alors qu'un regard sur les routes russes prouve que ces considérations sont déjà largement mises de côté dans ce pays avant-gardiste. La Russie, hein, ça, d'abord ils se débarrassent des contraintes légales et après ils commencent à développer des trucs. Quand ce futur sera notre présent, on ne précisera même plus le autonome de voiture autonome. À vrai dire, la question se posera même pour le voiture, en fait. Après tout, on parle plus de son mobile comme d'un téléphone, tant cette fonction initialement principale est devenue accessoire. Le futur nous tend les bras, les amis. Les auteurs de science-fiction sont juste un peu plantés. Le futur, ce ne sont pas des voitures qui volent, mais des espaces de vie mobiles qui se conduisent tout seuls.
C'est un futur que Daz... Est-ce que c'est un futur que tu aimes, mon petit Daz?
Oui, moi, ça me plaît.
Ah, pourtant, toi qui aimes conduire, en tout cas.
J'aime conduire, mais ça me plairait aussi de faire autre chose, en fait.
Ah, d'accord. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces... En fait, effectivement, comme dit Daz, ce ne seront plus des voitures au sens propre du terme. C'est un peu comme les mobiles d'aujourd'hui, ce ne sont plus des smartphones au sens propre du terme. la conduite sera une partie minime de nos usages. On fera plein de choses dedans. Donc, comme dit Daz, on pourra baiser, on pourra dormir, on pourra jouer, on pourra mater des films, on pourra passer le temps. Enfin, bref, ça va tout changer.
Il faudra que les voitures s'agrandissent quand même. Parce qu'on discutait avec Daz de la taille de l'habitacle.
Oui, mais je te dis.
Et tu peux quand même pas placer tant de choses que ça quand t'as quand même des personnes dans ta voiture, quoi.
Une 208 est une voiture citadine. Ça mesure 4,50 m.
Oui, mais t'as quand même un moteur dans ta voiture.
Oui, mais les voitures autonomes seront.
Ouais, mais le moteur, il sera dans les roues.
Dans les roues, dans le plancher.
C'est vrai. Ouais, bah ouais.
Non, mais t'as quand même 4 personnes, tu peux pas allonger 4 personnes dans ta 208, par exemple.
Superposé.
Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que, comme tu dis à la fin de ta chronique, on parle encore de voiture alors que je vois plus le rapport.
Espace de vie mobile.
Espace de vie mobile.
Mais du coup, on peut faire un truc immense, vivre à plusieurs.
On peut faire des bus, quoi.
Faire des villes qui bougent.
Non, mais le problème, en fait, c'est quand même que, donc, ton espace de vie mobile, faut quand même le garer sur une place de parking d'espace de vie mobile.
Pourquoi donc?
Bah, parce qu'à un moment donné, faut le ranger.
Non, mais après, tu mets des grands parkings. En fait.
C'est-à-dire que quand t'es pas dedans, ils rentrent pas dans le sol.
Toi, en fait, Sylvain, t'irais plus loin. On aurait juste des maisons, des habitations mobiles. Parce
que c'est pas la camping-car. Sylvain est à main bosse.
Non, mais attends, un camping-car autonome, ça peut le faire.
Le problème, c'est que l'être humain n'a pas d'ambition. Donc là, on a des ordinateurs dans la poche, qu'on appelle, contrairement à ce que tu dis, toujours des téléphones.
J'appelle ça
qui ont la gueule des téléphones. Oui, qui devraient être des ordinateurs de poche. Qu'on appelle des téléphones intelligents. Alors que c'est même plus ça, et ça aurait dû prendre une forme complètement.
On parle encore de smartphone maintenant, on parle de mobile en général, le truc mobile quoi.
Je pense qu'on remplace la fonction par le nom, donc on appelle ça un iPhone, il appelle ça un Nexus.
Ouais, tout à l'heure on était au Café des Anges, t'as dit qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone.
Ah. Ouais, mais là c'était mon téléphone cellulaire, j'ai dû dire exprès pour rigoler en fait.
Ok,
voilà.
Fibre.
Okay.
J'ai deux remarques et demie.
Ah,
donc
j'attends impatiemment la ennemie. Fibre.
La première c'est que déjà 404 Origins, donc cette chronique elle est venue du fait
404
que...
Origins.
Ah ouais, cette chronique elle est venue du fait que.
C'est un documentaire payant sur Vimeo.
Non, il y a eu un podcast très intéressant à la Getty Lyrics sur les podcasts. Mmh. Et il y avait des responsables de Radio France, de Arte Radio et voilà, qui disaient, mais vraiment avec le masque de terreur, mais attendez, il va y avoir les voitures autonomes et les gens ne vont plus écouter la radio, ça va être la fin de la radio. Donc les gens au plus haut niveau à la Radio France, ils prennent ça très au sérieux.
Là, c'est marrant.
Je suis plutôt d'accord avec
les podcasts sur nos tablettes.
Donc vraiment, ils pensent justement que les podcasts c'est peut-être une voie de reconversion possible parce que la radio va être atomisée peut-être par ça. La deuxième chose, c'est que malheureusement, alors j'adorerais croire au rêve de Daz.
Ouais.
J'adorerais, mais je pense que c'est impossible pour deux raisons. Voilà. Parce que moi déjà, j'ai vécu l'arrivée de la Renault Espace. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait pas d'espace, tout d'un coup il y a eu Renault Espace. Et ce Renault Espace, c'était un peu la promesse de ton papa conduit et derrière tu fais un Monopoly avec la famille.
Ouais, c'est vrai.
En fait, que dalle, t'as la ceinture parce qu'il y a des accidents, tu bouges pas et c'est pire que la voiture de base. Tu vois,
tu peux quand même tourner les fauteuils à l'arrière pour faire face à face.
Et dans les virages, tu vomissais.
Ouais, super. Donc
1986,
ça a été
les gars.
Nul à chier. Et là, les drones, ils sont arrivé, tout le monde dit tout le monde a des drones là, que dalle, maintenant ils tirent sur les drones à vue. Donc moi je vous dis vos voitures,
mais dans quelle vie vis-tu?
Non mais si, attendez, vous faites un putain de drone au-dessus de Paris, je peux vous dire, les flics ils prennent leur flingue et ils le tirent dessus. Donc je
roule en Renault Espace, les flics ils tirent dessus.
Je veux dire un truc, c'est que votre voiture autonome, les mecs ils vont avec des fusils à pompe parce qu'ils vont dire il y a une voiture, c'est une voiture de djihadiste, il y a des bombes dedans. Et vous, jamais de la vie vous aurez des voitures autonomes, ça ne marchera pas.
Ton histoire de ceinture elle saute parce que les voitures intelligentes se reconnaissent entre elles et du coup il n'y a plus d'accident.
Mais bien sûr, les programmes informatiques, il n'y a jamais de bugs, ça n'arrive jamais, il va y avoir des morts par milliers, je te le dis.
On est en 2035 là, on est dans le futur de Daz quand tous les bugs vont être
fixés. C'est précisément pour ça que moi 2020 j'y crois absolument pas, parce que je sais que la route par définition c'est soumis au climat, aux intempéries, et que du coup tout ce qui permet à une voiture actuellement autonome de se repérer, ça marche plus. Parce que dès qu'elle perd le marquage, elle t'envoie dans un ravin, elle voit plus les feux rouges et gris d'intersection.
Bon, on en parle plus tard.
Non mais c'est vrai, c'est pour ça que moi j'ai dit 2035.
Mais même si tu dis,
il faut surtout
si Mélissa dit il y aura plus de bugs dans le futur, je veux dire, tous les informaticiens qui sont devant le podcast, qui sont en train d'écouter le podcast, ils rigolent. Non, il n'y aura jamais de programme informatique.
Ils rigolent, ils vont corriger leurs bugs.
Mélissa,
tes bugs de ton ordinateur aujourd'hui, ils remettent pas ta vie en cause. Oui, peut-être ton argent, mais pas ta vie.
Si je suis dans un avion, un peu, mais bon.
Là, il est question de trucs de normes, quoi. Il y aura des normes qui feront que, genre, si ça tue
des
gens, ça
ne
sera pas commercialisé, quoi.
Vous êtes assis sur votre putain de fauteuil, vous avez la ceinture de sécurité et vous écoutez Radio France.
Tout ça, ça vient de Radio France, quoi. Non, c'est grand complot.
On va planter de l'eau au moulin de fibres sur sa première remarque avant la deuxième et la demi. Effectivement, dans des groupes médias, on se pose aussi la question
comment occuper le temps.
C'est une nouvelle opportunité pour choper l'attention des utilisateurs.
Là, c'est le publicitaire qui parle.
Ouais. Ouais. Bah, le publicitaire et même les médias qui disent comment nous, en tant que journal ou site internet, on va balancer du contenu dans les voitures le jour où les gens feront des très longs trajets sans rien faire d'autre
Même leur trajet du jour. Mélissa.
Il y a une dernière question, c'est que quand on lit dans une voiture, on vomit souvent. Enfin, la plupart des gens. Non, mais c'est une question de son, parce qu'en fait, t'entends le son d'un truc et
c'est l'équilibre de l'oreille interne. Non, c'est l'oreille interne, mais c'est sur.
Mais du coup, là, c'est la même chose, quoi.
Non, parce qu'en fait, t'auras des technologies qui vont permettre de compenser.
De stabiliser la voiture.
Parce que par exemple,
on parle du gyroscope et on parle même. Attention, Citroën, la France, les suspensions hydroactives.
Non, mais même sans parler de ça. Qui permet à une voiture de se stabiliser intelligemment. Sans parler de ça, la MUA.
Daz.
Il y a plus de vitres dans mon véhicule de mobilité là. Ouais. Ce qui veut dire que l'écran, il peut très bien te renvoyer une image de la vraie vie à 250 fps s'il veut.
Oui, mais du coup, tu vas regarder.
T'as encore moins envie de vomir que si tu marchais vraiment dans la rue, c'est incroyable. En retour de soirée, tu peux régler le framerate pour pas dégueuler.
Donc en fait, t'as une voiture fermée qui te remontre la vie le plus réellement possible.
On
n'a pas de fenêtre, mais on va des caméras partout pour que tu puisses avoir un écran.
En ajustant, en fait, pour pallier à. En fait, le problème dans.
Donc tu regardes un écran avec la vraie vie au lieu d'avoir des vitres.
Non, c'est pas ça. Tu regardes pas un écran avec la vraie vie. Tu regardes ce qui permet à ton cerveau primitif et à tes yeux qui sont merdiques de faire en sorte que ton estomac ne te remonte pas dans la gorge.
Tu regardes quoi, du coup ? Tu peux pas regarder une série, tu regardes
ce que tu veux. Mais non, mais bien sûr que si.
Mais tu peux pas jouer à Assassin's
Creed. Tu regardes pas une série dans un avion, toi.
De toute façon, tu n'as pas le sentiment de vitesse.
Attendez, je l'ai bloqué, elle a réfléchi. Tu regardes pas une série en avion.
Ou dans un train.
Ou dans un train, par exemple, qui roule de manière rapide, en plus, genre à 300 km/h.
Il roule tout droit.
Voilà, il fait tac-tac-tac-tac.
C'est quoi le truc ? C'est l'oreille interne, ça ?
C'est l'oreille interne. Mais en fait, si on a des voitures qui virent à plat et qui te font ne pas ressentir les virages, t'auras pas de problème.
Juste, comment voyez-vous, du coup, qu'est-ce que vous voudriez faire dans une voiture où il y a, on va parler d'une voiture comme un espace vierge, comme disait Daz, un espace de vie puis un espace de transit. Qu'est-ce que vous feriez pendant 2 heures dans ces voitures autonomes? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Parce qu'on parlait aussi de réseaux locaux. Daz parlait des road parties où toutes les voitures autour de vous peuvent brancher la même musique et on peut, on peut pas ouvrir les vitres. Mais du coup, il n'y a pas de vitres.
Ouvrir les écrans.
Et danser tous ensemble parce qu'on sera peut-être debout dans les voitures autonomes parce qu'il n'y aura pas forcément de notion de siège ou il y aura des notions de couchette, on sait pas. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous voudriez draguer des gens qui sont autour de vous, discuter cinéma, faire une projection commune, fibre?
Alors, je vais dire un truc qui a l'air complètement nul, mais vous allez voir, il y a un twist. C'est que moi, si vraiment on pouvait avoir des petits habitacles, des petites maisons roulantes et autonomes, je travaillerais dedans.
Ouais.
Et je programmerais pour que, au moment où j'arrête le travail, je sois dans un lieu où il y a un super coucher de soleil de ouf, tu vois, où je serais au Népal, tu vois. Et je dis, demain, je vais travailler toute la journée et j'arriverai, je serai à Vladivostok, je serai devant l'océan Pacifique.
C'est exactement ce que
c'est
je
proposais.
C'est
le rêve de la vie de freelance.
Ouais.
Donc, comme disait Daz, tu dis Vladivostok Go sur ton logiciel.
Voilà, et je vais manger de la bouffe russe. Et puis le lendemain, je suis de retour en Allemagne, je mange des saucisses et je suis content.
C'est la vie de jet-setter à la portée de tout à chacun.
Sauf que les mecs, il y a des politiques de migration et que donc les frontières.
Non, parce que t'as vu, d'une certaine manière.
Il y aura une seule nation souveraine.
Mais non, parce que tu nous dis, Fibre, c'est un peu ce qu'on vit dans le train aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans un transport très stable, plutôt agréable. On peut y travailler, on peut s'y reposer, c'est automatisé. La liberté en moi, mais en fait, c'est un peu ça, non? Ça ressemble
oui,
pas
mais à part que là, vraiment, on peut aller dans un endroit très loin, manger
coup,
de la bouffe
coup,
nouvelle.
Faire un road trip, Mélissa. Va perdre toute beauté, quoi. Faire un road trip.
Mais nous, on cassera les écrans de Daz, on mettra des fenêtres.
On veut travailler toute la journée à ton bureau.
Il y a que Daz qui veut rouler dans un coffre, dans une caisse.
Tu pourras faire un road trip pendant 365 jours, en
fait. En plus, Lam, il est en train de travailler. Moi, je dis à Lam, tiens, Lam, ce soir, on est à Shanghai. Et voilà, et on se retrouve, alors que lui, ce matin, il était à Moscou et moi, j'étais à Bombay.
Ouais, alors attention, la voiture est pas supersonique quand même.
C'est pas un avion. Hein.
Calmez-vous.
Si on a une voiture vraiment très intelligente, pourquoi ne pas casser les limitations de vitesse? Enfin, on n'en parlait pas, mais.
Ouais.
Mais
c'est vrai que si les bugs sont résolus.
Exactement. Partons d'un fait que les voitures marchent bien dans 20 ans, qu'elles sont toutes synchronisées les unes avec les autres, et qu'on peut avoir des voitures qui roulent à 250, 270 km/h parce que ce sera possible. Et qui nous permettent par exemple d'aller.
Je vais même te dire quelque chose,
si t'es
en retard dans ton travail, tu peux remonter le temps, les fuseaux horaires, tu vois.
Ouais.
C'est fou quand même.
Ton travail, tu le dois toujours à
quelqu'un.
Ouais,
ça j'y crois pas trop en fait.
Non, mais si,
parce que je suis dans l'informatique.
Il y aura des sortes de grands axes qui seront des hyperloops et ce sera les voitures qui vont s'accrocher ensemble pour faire des trains. On traverse ça comme ça.
Et c'est un voyage par air comprimé.
Non, mais parce que c'est marrant.
Mais non, mais regarde, si on a des voitures disciplinées comme des Allemands, ils ont des autoroutes sans limitation de vitesse, on parlera d'autoroutes.
Ouais, bah alors, il faudrait qu'on parle des statistiques de morts sur les autos, sur l'autobahn.
C'est la génération de gens qui adorent conduire.
Oui, alors voilà.
Non, je suis pas d'accord avec ce, alors, ce jeunisme à la con.
C'était ma dernière chose. Pour les gens qui veulent conduire, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, c'est comme les gens qui aiment le vinyle actuellement, ouais, ils font chier tout le monde, mais ils ont des platines et des vinyles. Bon, bah voilà, t'auras ta voiture qui pollue et tu conduiras, et tu slalomeras entre toutes ces bagnoles
oui,
de
mais
mongolos,
est-ce que,
là.
Est-ce que tu feras pas péter un câble à toutes ces voitures qui sont censées être, vivre dans une harmonie?
Mais c'est pour ça
comme, comme une hive mind dans une ruche d'abeilles.
Non, mais il y aura toujours des animaux qui vont passer sur la route.
Oui.
Bah, les voitures, ce sera considéré comme des animaux.
Je crois que t'allais dire, les conducteurs sont considérés comme des animaux.
En 2036, il y aura plus d'animaux. Non, mais il y aura des fermes.
Ces gens-là, ils auront tellement moins de features dans leur vie que les gens qui auront leur maison hypothétique, qu'à un moment, ils vont se dire, bon, je m'y mets. Voilà. C'est comme les gens
un peu comme
les gens qui n'ont pas Internet aujourd'hui. Tu sais, qui disent, ah, Internet, c'est nul. Et puis, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent commander les papiers toilettes deux fois moins cher sur Amazon et ils disent, ah, c'est quand même bien.
Non, mais plus sérieusement, là, mais en fait, je pense que la clé pour que ce truc-là fonctionne, en tout cas, tel que toi, tu l'imagines, c'est que ces véhicules-là roulent sur un réseau dédié.
Ouais.
Et que le réseau standard devienne un genre de réseau secondaire, alors, un peu comme les nationales par rapport aux autoroutes.
Déjà que les pistes cyclables, c'est simple, alors j'imagine même pas le.
Non, mais
après, il y a un enjeu d'industrie, donc je pense que Dassault ou des gens.
Attendez, juste pour terminer le tour de questions, du coup, vous, qu'est-ce que vous feriez dans ce lieu de vie? Quelles applications vous voudriez avoir sur votre voiture? Quels usages vous voudriez avoir sur vos voitures de 2036?
Moi, tout ce que je fais actuellement, c'est-à-dire lire. Dormir, ouais, quand je conduis, et écouter de la musique.
lire, dormir et conduire.
Tout ce que je fais actuellement sur le périph.
Tu dors sur le périph?
Oui, ça m'arrive.
Tu voilà. dors sur le périph?
Ouais, ouais, mais tu vois, attends, des micro-siestes, tu vois, comme les chirurgiens. Fil de droite, tu mets sur la glissière, t'es sûr d'arriver à destination.
Donne aux gens le modèle de ta voiture que le monde suive pas trop.
Sylvain, qu'est-ce que tu ferais dans ce... une application ou un usage?
Moi, ce qui m'intéresserait, c'est les interactions sociales avec les autres voitures.
D'accord.
Les chats, les partages. De vidéos.
Souviens-toi tes résolutions de 2016, Sylvain.
Bah ouais, mais rencontrer des gens, ça fait partie de mes résolutions.
Bah, c'est rigolo. Super intéressant. Tu te plais, tu viens, mets-toi sur la voie d'urgence à droite, on va discuter pour deux.
Ouais.
Là, ça parlait d'une voiture qui serait un cube fermé avec des écrans partout. On peut penser ça complètement autrement. Imaginez que les voitures ne soient que des planches qui roulent de manière très fluide.
Comme un escalator, un tapis roulant.
Ah oui, on pourrait être debout, allongé aussi. Bon, Mélissa, qu'est-ce que tu ferais, toi? Qu'est-ce que tu voudrais comme type d'application d'interaction dans un lieu de vie intelligent qui te balade de droite à gauche?
Je pense que déjà je passerais les deux premiers mois à faire des road trips dans le monde entier parce que juste ça deviendra encore plus facile qu'aujourd'hui où on peut voyager plus facilement qu'il y a 50 ans.
C'est vrai que pour le voyage ce serait assez génial.
C'est
quand même
le premier truc que je ferais. Après, je sais pas ce que je ferais ensuite.
Une application qui te permette de corriger les articles de Slate.
Alors on va limiter le nombre de trolling. Je vais te défoncer.
Ça y est, je suis arrivé. Ça y est,
t'es arrivé à bon port.
Ça marche.
Bon,
toujours,
en tout cas, nous on sera impatients, chers auditeurs, de savoir ce que vous feriez et comment vous imagineriez. C'est quoi ces lieux de transport de vie mobile?
Lieu de mobilité. Attends, je le trouve. Bouge pas.
Bon,
bouge
c'est smartphone quoi. On va appeler ça des smartphones.
Des smartphones qui roulent.
Espace de vie mobile.
Je veux pas faire
espace
mon babos, mais à un moment donné, faut quand même remettre en question le principe de voiture individuelle, non, en 2035.
Ah mais il y aura pas de voiture individuelle parce que Daz avait déjà parlé de l'ubérisation, on pourra tomber sur une prostituée de la nuit d'avant. Hein,
ouais,
mais
on sera tout seul dans une voiture quand même. Vous avez encore ce modèle en tête.
Ah non, on pourrait être plusieurs.
Tu seras avec tes potes.
Ah non, on pourrait être plusieurs.
Attends, moi personnellement, quand je vais faire quelque chose, j'ai pas besoin d'être 3 ou 4. Tu vois, je peux aussi aller tout seul. C'est le principe.
Ouais, non, mais le concept d'avoir 4 roues et un petit cube qui soit qu'on voyage comme ça, c'est marrant quand même.
On parlait aussi de la fin des transports en commun. Parce que du coup, tout le monde pourra monter dans des voitures
qui sont à tout le monde.
Ouais. Il n'y aura plus besoin d'attendre des horaires, 4 minutes, 5 minutes. On saura direct où est un truc libre et peut nous emmener. On rentrera à la destination, ça nous emmènera là où on veut, quoi.
Bon. J'ai hâte.
Bon, ça part dans toutes les directions. En tout cas, on a hâte d'entendre vos pistes à vous, chers auditeurs.
Studio 404, l'émission de société numérique.
C'est la fin de cette émission de Studio 404. Merci de nous avoir écoutés, d'être restés avec nous. On s'est bien amusés, hein. On a parlé donc de voitures autonomes. On a parlé de vraie vie ou pas de vraie vie à travers nos amis les réseaux sociaux. Nous avons parlé de ce réseau social qui est Snapchat, que Fibre vous conseille d'essayer. Enfin, surtout Fibre vous conseille de suivre Fibre
voilà,
sur Snapchat.
L'audience.
Je n'ai rien dit.
Et on aura parlé de l'équilibre, de la terreur, des gens qui se notent les uns les autres, des entreprises qui notent les gens, enfin de tout le monde qui se note, et on aimerait bien avoir vos avis. En tout cas, rendez-vous sur Twitter, sur Facebook, sur Internet évidemment, et on se retrouve très vite. Merci encore.
Ciao.
Bye bye.
J'allais dire au revoir, mais d'abord aussi, on remercie nos amis du Tank.
Tout à fait.
Parce que là, nous sommes présentement au Tank, seuls. Ils nous ont carrément filé les clés, donc on est vraiment, on fait partie des meubles. Et voilà, j'en profite pour remercier donc Nicolas, le boss du tank, et Damien, le responsable de tout le tank. Et on s'excuse par avance, j'ai piqué les apéritifs. Je sais pas ce qui se passe dans la salle ce soir. Il y a une sorte de conférence marketing, marketing prospective avec des post-it, des idées,
c'est le bordel,
des noms de marque, avec marqué pornification, hybridation.
Je pense qu'il y a beaucoup de mots clés bullshit.
Voilà, beaucoup de mots clés. Et puis surtout, il y avait des apéritifs, j'avais très faim, donc j'ai piqué des trucs. Voilà, transparence, vérité. Ne mettez pas de mauvaise note. Allez, ciao.
Ciao. Salut.
Bye.